السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا. Donc nous sommes ce soir, inshallah ta'ala, mercredi 28 Jumad al-Akhira 1434 de l'Hégire, ce qui correspond au 8 mai 2013. Nous sommes, inshallah ta'ala, toujours avec notre livre, ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Cours numéro 25. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va parler sur l'examen, la surveillance et la correction de l'âme. Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, rapporte: Je suis sorti un jour avec Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, jusqu'à ce qu'il entre dans un jardin. Et je l'ai entendu dire, c'est-à-dire il parlait tout seul. Il disait: Omar ibn Khattab, cesse, par Allah, tu vas craindre Allah, ô Omar ibn Khattab, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala te châtira. Je répète. D'après Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, il a dit: je suis sorti un jour avec Omar ibn Khattab, jusqu'à ce qu'il entre dans un jardin. Alors j'ai entendu dire: Omar, cesse, Omar ibn Khattab, cesse, arrête, par Allah, tu vas craindre Allah, ô Omar, ou bien Allah te châtira. Donc comme ça qu'étaient les salafs, radiyallahu ta'ala anhum, tellement qu'ils avaient peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils se parlaient même à eux-mêmes. Ils se parlaient à eux-mêmes. Ils se disaient X, en se parlant à lui-même, il se dit X, crains Allah subhanahu wa ta'ala, crains Allah, tu vas mourir. X, Allah, X, arrête de faire les péchés. Et comme ça, bi'idhnillahi ta'ala. Ibn Abi Malika, rahimahullah, rapporte. Il a dit: j'ai rencontré 30 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tous craignaient l'hypocrisie pour eux-mêmes. Allahu Akbar. Ibn Abi Malika, rahimahullah, rapporte. Il a dit: j'ai rencontré 30 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tous les 30 craignaient l'hypocrisie pour eux-mêmes. Donc, alhamdoulilah, c'est une ni'ma. Quand une personne craint l'hypocrisie pour elle-même, qu'elle craint la colère d'Allah, qu'elle craint l'enfer, qu'elle craint le courroux d'Allah, et comme ça, tout ça, ce sont des signes que quoi? Que la personne est soucieuse de son dîn, que la personne a peur, naam. Contrairement, comme on va voir tout à l'heure, contrairement à celui qui s'en fout, naam, et il dit, tout le monde fait comme ça, Allah ghalib, c'est difficile, les temps ont changé, et alhamdoulilah, au moins je fais la salat, etc. Tout cela, bien sûr, ce sont des gens qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez que les compagnons eux-mêmes craignaient, yani, qu'ils étaient hypocrites, subhanallah al-azim. Tellement la foi grandit dans le cœur, et elle est forte, elle est bien ancrée, tellement tu as peur. Comme je l'ai dit une fois, plusieurs fois. Et tellement, naam, et si tu sens que tu n'as jamais peur, et que tu dis, alhamdoulilah, tout va bien, je vais bien, je serai parmi les premiers dans le paradis, ça veut dire que ta foi est faible. Naam, ta foi est faible, et c'est le shaitan qui te fait parler comme ça, a'udhu billah. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit: je n'ai jamais regardé, parlé, saisi, et je me suis jamais levé sans me demander si cela était dans l'obéissance ou bien la désobéissance d'Allah. Il a dit: si c'était dans l'obéissance, je poursuivais. Et si c'était dans la désobéissance, je repoussais cela. Je répète. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit: Je n'ai jamais regardé, parlé, saisi une chose de ma main, et je me suis jamais levé sans me demander est-ce que je fais ça pour l'obéissance d'Allah ou bien la désobéissance. Si c'était dans l'obéissance, je poursuivais ce que je venais de commencer. Si c'était dans la désobéissance, je repoussais cela. Naam. Comme ça, qu'étaient les salafs, naam, rahimahumullah et radiallahu ta'ala anhum, ils ne font jamais une chose, naam, sans se demander d'abord, est-ce que cette chose c'est une obéissance ou bien c'est une désobéissance. Naam. C'est pas comme maintenant, comme vous avez remarqué, vous êtes des fois avec nous la plupart du temps dans les questions-réponses, vous avez remarqué. Des fois, naam, des gens, ou des frères ou bien des sœurs font yani, la chose, ensuite, yani, bien après le mariage, bien après ceci, viennent demander, est-ce que mon mariage est halal ou est-ce qu'il est haram? Naam, subhanallah l'adim. Mais avant de faire le mariage, avant de passer au contrat, tu as demandé, tu as cherché à savoir. Bon, il y a des gens qui ne savaient pas, qui étaient dans l'ignorance, dans les passions, etc. Ceux-là sont pas des gens qui savent, naam, mais ils ne demandent pas. Et quand la faute arrive, ils commencent à demander. Enfin, je dis, alhamdoulilah, que même après la faute, ils demandent. Car il y en a qui, même après la faute, ne demandent pas. Ils disent, moi, je m'en fous. Je dis quand même, alhamdoulilah. Mais le vrai musulman, yani avant de faire une chose, il se demande, est-ce que cette chose, c'est pour Allah, est-ce que Allah aime cette chose, ou bien c'est dans la désobéissance. Si c'est le cas contraire, il s'en éloigne, bi'idhnillah ta'ala. Il y a un athar qui est authentique, je ne l'ai pas ici devant moi, de l'imam Ahmed, rahimahullah. Il a dit, si tu peux, comme ça dit l'imam Ahmed, pour que vous voyez comment quitter les selfs, par rapport quoi? Par rapport à la surveillance et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du Coran. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Ahmed rahimahullah? Il a dit, si tu peux, écoutez bien cette phrase, si tu peux ne pas te gratter ta tête, ou alors ne te gratter la tête, qu'après t'être basé sur un hadith ou un athar, fais-le. Le fait de gratter la tête, quand tout le monde se gratte la tête, il a dit, quand tu veux gratter la tête, si tu pouvais te baser sur un athar, un verset, un hadith, pour te gratter, c'est mieux. C'est-à-dire, quand on se gratte, c'est permis. Mais eux, les selfs, tellement ils suivaient, kitab ou sunna et selfs, ils voulaient que toute chose, même si c'était quelque chose qui rentre dans l'habitude, ils voulaient la faire se basant sur des athars. C'est-à-dire, même on se gratte en tête, on n'a pas besoin d'un délil. Mais lui, il voudrait, s'il y avait yani, que les selfs avant moi yani, se grattaient la tête et il y a quelque chose de yani, qui nous vient des selfs, je voudrais, yani, c'est mieux plutôt que je me gratte moi-même. Subhanallah al-Azim. Comment qu'il était? Rahimahumullah et radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bon, continue. Maymoun ibn Siyah, rahimahullah, a dit, il a dit que celui qui veut connaître son rendement regarde ce qu'il a accompli en ce bas monde, car c'est à ce rang qu'il sera. Car c'est à ce rang. Maymoun ibn Siyah, rahimahullah, a dit que celui qui veut connaître son rendement, tu veux connaître demain dans quel rang tu seras. Le paradis, c'est des rangs, vous connaissez le hadith. Tu veux savoir dans quel rang tu seras. Combien tu seras proche d'Allah Ta'ala ou loin. Alors regarde ce que tu as accompli en ce bas monde. C'est à ce rang, naam, c'est d'après ce que tu faisais ici, que tu seras, yom al-qiyama, yani, tu seras parmi ceux qu'on rapproche ou ceux qu'on éloigne. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, a t'interdit quoi? A interdit l'injustice, même sur lui-même. Donc toute personne qui ici, dans ce bas monde, faisait des efforts pour se rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala, il la rapprochera yom al-qiyama. Et toute personne qui ici était insoucieuse, naam, Allahu alam dans quel rang elle sera yom al-qiyama. Naam. Ibrahim Taymi rahimahullah a dit, je n'ai jamais rapporté mes actes à mes paroles sans penser être menteur. Allahu Akbar. Je n'ai jamais rapporté mes actes à mes paroles. Je n'ai jamais comparé entre mes actes et mes paroles sans penser que j'étais menteur. Comme j'ai dit tout à l'heure, remarquez ce qu'il a dit, sans penser que j'étais un menteur. Plus haut il a dit, ils ont dit, On était des hypocrites. Donc il n'a pas dit ici, sans penser que j'étais le pieux, ou bien celui qui serait avec le prophète Islam, ou bien non. Toujours c'est le contraire. Toujours il pense que on est des menteurs, on est des hypocrites, on est des gens qui font les grands péchés comme ça. Si tu penses comme ça veut dire que c'est mashallah. Si tu penses le contraire, que tu es mashallah et que ceci, cela, sache que c'est le shaitan qui a joué de toi. C'est le shaitan qui a joué de toi. Le vrai, vrai croyant, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui toujours a peur. Toujours a peur, yani que tout ce qu'il fait, et peut-être qu'il n'est pas accepté. Car peut-être il n'est pas sincère avec Allah. Car peut-être il manquait telle et telle chose dans ses adorations. Car ceci, car cela. Naam. Si tu fais comme ça, tu deviens soucieux. Tu deviens soucieux pour ton dîn. Mais si tu te laisses aller et tu dis que tout va bien, alors le shaitan, naam, va avoir le dessus sur toi, audhou billah. On continue, inshallah ta'ala. El-Maroudi, rahimahullah, rapporte, il a dit, j'ai demandé à Ahmed ibn Hanbal, comment vas-tu ce matin? Il répondit, comment peut aller celui dont son Seigneur lui demande d'accomplir les obligations, dont le prophète lui demande de pratiquer la sunna, dont les deux anges lui demandent de corriger ses œuvres, dont l'âme lui demande de réaliser ses désirs, dont Iblis lui demande de commettre des turpitudes, dont l'ange de la mort guette pour saisir son âme, et dont la famille, par-dessus le marché, j'ajoute, lui demande de réaliser des dépenses pour eux. Naam. Subhanallah al-Azim. Regardez ce qu'a dit l'imam Ahmed. Quelqu'un a dit, Maroudi, un ami de l'imam Ahmed et un disciple. J'ai demandé à Ahmed ibn Hanbal, comment vas-tu ce matin? Il répondit, comment peut aller celui dont son Seigneur lui demande d'accomplir les obligations? Celui dont le prophète Aïssam lui demande de pratiquer la sunna, celui dont les deux anges lui demandent de corriger ses œuvres, celui dont l'âme lui demande d'assouvir ses désirs et ses passions, et celui dont Iblis lui demande de commettre des turpitudes, et celui dont l'ange de la mort guette pour saisir son âme, et par-dessus le marché, et celui dont la famille, même la famille ne laisse pas tranquille, lui demande de réaliser des dépenses pour eux. C'est normal, tu t'es marié, tu as des enfants, la famille, il faut dépenser. Donc il lui dit, comment voudrais-tu que je sois bien? Comment voudrais-tu que je sois bien? Et il y a ces cinq ou six, ce que je viens de citer maintenant, tu dois surveiller, yani, et être tout le temps, yani, à l'affût. Naam. Ce n'est pas comme, yani, la personne qui s'oublie. La personne qui s'oublie, et si elle s'oublie, ce qui vient d'être cité ici, elle fait n'importe quoi. Mais si elle se dit, Naam, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de me voir toujours, Naam, elle me demande, est-ce que j'applique ou j'applique pas? Naam, le prophète Aïssa, Naam, Allah ta'ala m'a demandé de pratiquer sa sunna aussi. Naam, donc, c'est une obligation aussi. Les anges qui sont à ma droite et à ma gauche, une petite faute, et ils écrivent. Naam. Et l'ange de la mort, qui guette aussi, il attend seulement le moment pour prendre. Naam. Non, mais il a dit l'âme qui demande quoi? Mon nefs, qui me demande tout le temps, yani, que je la laisse faire ce qu'elle veut. Non, ton âme, ou bien tu la dresses, ou bien c'est toi qui la commandes, ou bien tu la laisses faire ce qu'elle veut et c'est elle qui commande. Il a dit, et encore pour terminer, yani, la famille qui demande, yani, de réaliser des dépenses pour eux. Donc, yani, je n'ai pas de temps, si je puis dire. Je n'ai pas de temps, je ne suis pas libre. Non. Tayyib. Qurra ibn Khalid, rahimahullah, rapporte. Il a dit, j'ai entendu Hassan al-Basri à propos de la parole d'Allah. La parole d'Allah, je jure par l'âme qui ne cesse de blâmer. Fala uqsimu min nafsi lawwama. J'ai entendu Hassan dire, tu vois constamment le croyant blâmer son âme et dire, qu'as-tu voulu? Qu'as-tu voulu par cette parole? Qu'as-tu voulu en mangeant? Et ainsi tu le vois constamment lui adresser des reproches, alors que le dépravé va de l'avant sans jamais adresser de reproches à son âme. Naam, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qurra ibn Khalid rapporte, j'ai entendu le Hassan al-Basri à propos du verset, je parle là, il ne cesse de blâmer. Je l'ai entendu dire, Tu vois constamment le croyant, qu'est-ce qu'il fait? Constamment, il est en train de blâmer son âme et de dire, qu'as-tu voulu par cette parole? Pourquoi tu as dit cette parole? Qu'as-tu voulu en mangeant? Pourquoi tu manges? Qu'est-ce que tu veux par ce manger? Non, pour te montrer ou là pour grossir et je ne sais pas dire que tu es fort ou là c'est pour adorer Allah, c'est pour le remercier. Et tu le vois constamment lui adresser des reproches, c'est-à-dire à son âme. Alors que le dépravé, le pervers, il va de l'avant sans jamais adresser à son âme de reproches. Au contraire, il adresse à son âme quoi? Des éloges. Il dit, Masha'Allah, je suis Masha'Allah, je suis ceci, je suis cela. Et si jamais allez, tu lui fais des reproches, il va te dire, pourquoi moi, qu'est-ce que je fais? J'ai tué quelqu'un? Est-ce que je suis un voleur? Est-ce que j'ai brûlé la mosquée? J'ai brûlé le Coran? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Non. Comme ça, il te dit, Subhanallah, l'adhim. S'il savait, allez, s'il savait. Mais malish, donc je reviens, je dis, comme j'ai dit tout à l'heure, le croyant c'est toujours celui qui se fait des reproches. Non. Tant que tu te fais des reproches, tu es mashallah. Tant que tu te laisses aller, comme il dit, si tu vas de l'avant, sans t'adresser de reproches, ça veut dire c'est grave. Non. Ça veut dire c'est grave. Taïb. Lorsque Bakr ibn Abdullah al-Muzani voyait un vieil homme, il disait, il est meilleur que moi. Il a adoré Allah avant moi. Et lorsqu'il voyait un jeune, il disait, il est meilleur que moi. J'ai commis plus de péchés que lui. Lorsque Bakr al-Muzani, rahimahullah, voyait un vieil homme, qu'est-ce qu'il disait? Il est meilleur que moi. Pourquoi? Il a adoré Allah avant moi. Et lorsqu'il voyait un jeune homme, il disait, il est meilleur que moi. Pourquoi? J'ai commis plus de péchés que lui. Non, je répète. Donc, regardez comment les selfs toujours s'adressent des reproches. Lorsqu'ils voient quelqu'un, s'il est vieux, qu'est-ce qu'il dit? Il est meilleur que moi. Il a adoré Allah avant moi. Celui-là, ça fait, mashallah, il a 50 ou il a 60 ans. Regarde combien il a adoré Allah, subhanahu wa ta'ala, des années et des années. Donc, il est mieux que moi. S'il voit un jeune, qu'est-ce qu'il dit? Il est meilleur que moi aussi. Pourquoi? J'ai commis plus de péchés que lui. Je suis plus vieux que lui, donc j'ai commis plus de péchés que lui. Quant à lui, il est jeune. Il n'a pas mis autant de péchés que moi. Subhanallah al-Azim. El-Mohim, toujours des reproches. Toujours des reproches. Qu'il voit un jeune, qu'il voit un vieux. Il trouve toujours des choses à se reprocher, vu la sincérité qu'ils avaient. Naam. Sofiane ibn Uyayna, rahimahullah, rapporte, il a dit, un pieux prédécesseur disait, lorsqu'il rencontrait un de ses frères, il disait, crains Allah. Et si tu ne peux jamais, et si tu ne peux, afwan, et si tu peux, n'aie de tort à celui que tu aimes, alors fais-le. Un jour, un homme lui dit, peut-on causer du tort à celui qu'on aime? Il répondit, oui. Ton âme est l'être qui t'est le plus cher. Naam. Et lorsque tu désobéis à Allah, tu lui causes du tort. Non, je répète. Sofiane ibn Uyayna rapporte, il a dit, un pieux prédécesseur disait lorsqu'il rencontrait un de ses frères, il lui dit, crains Allah. Et si tu peux ne jamais causer de tort à celui que tu aimes, fais-le. Alors qu'un lui dit, pourquoi? Peut-on causer du tort à celui qu'on aime? Il lui répondit, oui. Ton âme, ce n'est pas l'être qui t'est le plus cher. Et pourquoi? Lorsque tu désobéis à Allah, tu as causé du tort à l'être le plus cher à toi. Donc, c'est une preuve qu'on peut causer du tort à l'être qu'on aime, non, mais à quelqu'un qu'on aime. La preuve, c'est quoi? La preuve, c'est qu'il n'y a pas plus cher pour nous que notre âme. Et on lui fait du tort. Comment on fait du tort à notre âme? Lorsqu'on désobéit à Allah. Car quand tu désobéis à Allah, ça veut dire que tu as fait du tort. Ça veut dire que tu veux une seconde. Où est-ce qu'on était? Où est-ce qu'on était? Je disais. Et je parlais de. On disait que l'être le plus cher, on pouvait lui faire du tort. La preuve, on fait du tort à quoi? À notre âme. Alors que c'est l'être le plus cher. Maimoun ibn Mahran. Maimoun ibn Mahran a dit qu'Allah fasse miséricorde au serviteur qui dit à son âme, n'est-ce pas toi qui as commis ceci? N'est-ce pas toi qui as commis cela? Puis la saisit. la muselle, la contraint à se soumettre au livre d'Allah Azzawajal. Subhanallah al-Azim. Je répète. Maimoun ibn Mahra rahimahullah a dit: puisse Allah Ta'ala faire miser au serviteur qui dit à son âme: n'est-ce pas toi qui as commis ceci? N'est-ce pas toi qui as commis cela? Puis la saisit, muselle, et la contraint à se soumettre au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme j'ai dit tout à l'heure, les salafs se parlaient à leur âme. Il dit à son âme: n'est-ce pas toi qui m'a dit de manger telle chose qui est haram? N'est-ce pas toi qui m'a fait faire tel et tel péché? Je vais te montrer aujourd'hui. Je vais te montrer. Tu vas jeûner demain, bidnillah. Tu vas faire tel et tel. Je vais te montrer moi, je vais te dresser. Il a dit: n'est-ce pas toi qui as commis ceci? N'est-ce pas toi qui as commis cela? Puis il l'a saisi, la muselle. C'est elle. Il a contraint à se soumettre au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car vous savez, l'âme c'est, subhanallah l'adhim, c'est comme une bête. Une bête féroce. Une bête qui n'est pas domptée. Et qui est avec toi. Maintenant, c'est à toi de voir. Ou bien tu la domptes. Et elle sera comme yani, on dompte, comme les gens, il y a des dompteurs qui domptent par exemple un animal. Un lion, on peut le dompter, par là, le lion. Il n'y a pas plus dangereux que le lion, plus vorace, on peut le dompter. Il vient au pied. La même chose, l'âme. Tous en ont une âme, et à toi de voir. Ou bien tu la domptes, et tu vas la commander. Ou bien laisse-la comme ça sauvage, laisse-la sauvage, et alors elle fera ce qu'elle veut de toi. C'est elle qui te commande, qui te mord. Elle te mord, et elle fait de toi ce qu'elle veut. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Masruq rahimahullah a dit: l'homme doit avoir des assises en lesquelles il s'isole, se remet ses péchés. Subhanallah al-Azim. Exactement comme on a dit tout à l'heure. Misruq a dit, rahimahullah. Misruq c'est un tabi'i, il a dit: l'homme doit avoir des assises avec lesquelles il s'isole. C'est pas des assises avec les gens, non, avec lui-même. Il s'isole, commence à se remémorer ses péchés et son repos. Naam. Il s'assoit de temps en temps avec lui-même. Il ferme la porte et commence à se parler. Naam. Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as dit ceci? Pourquoi tu as fait cela? Pourquoi dit cela? Comme ça. Une fois qu'il trouve qu'il a fait faute, il demande pardon à Allah subhanahu wa azzawajal. Et Misruq, c'est un partie des tabi'in. Misruq, ça veut dire voler. Voler dans le sens participe passé. C'est-à-dire a été volé. Comme ça, voler. Voler. A été volé. Pourquoi on l'appelle Misruq? Car cet homme-là, ce tabi'i, a été volé quand il était jeune. A été kidnappé quand il était enfant. Ensuite, on l'a retrouvé. De ce jour-là, on l'a appelé Misruq. Naam. Al-Fudayl ibn Ayyad, rahimahullah, a dit. Al-Fudayl ibn Ayyad, rahimahullah, a dit: pauvre de toi, tu es malfaisant et tu penses être noble. Tu es stupide et tu penses être sensé. Ton existence est courte et tes espérances immenses. Fudayl ibn Ayyad rahimahullah a dit: pauvre de toi, comme tu es pauvre, tu es malfaisant, tu ne fais que du mal et tu penses être noble. Subhanallah. Tu penses être sensé. Ton existence est courte. Sache que ton existence est courte et tes espérances sont immenses. Naam. Ton existence est courte. Peut-être que dans 5 minutes, tu vas mourir. Mais tes espérances, subhanallah, immenses. Je voudrais ceci, je voudrais cela, je souhaite ceci, je souhaite cela. Naam. Ça ne se termine pas. Innombrable. Alors que ton existence, peut-être que d'ici demain matin, tu ne vas pas te réveiller la nuit. Pour ça, la sortie. Alors que, quoi, tes espérances, yani, sont innombrables, comme je disais. Ja'far ibn Burkan rahimahullah rapporte, il a dit: j'ai entendu Maimoun ibn Mahran dire: l'homme ne sera pas par Dieu, ou l'homme ne sera parmi les pieux que lorsqu'il examinera son âme plus encore que son associé, et qu'il sache d'où provient sa nourriture, ses vêtements, sa boisson, de ce qui est licite ou bien illicite. Naam. Ja'far ibn Burkan rapporte, rahimahullah, j'ai entendu Maimoun ibn Mahran dire, l'homme ne sera parmi les pieux que lorsqu'il examinera son âme plus encore que son associé, et qu'il sache d'où provient sa nourriture, ses vêtements, sa boisson. Est-ce que c'est du licite ou bien? Quand l'homme est comme ça, s'il atteint ce degré, il est devenu pieux. Première phase, c'est quoi? Il doit examiner son âme beaucoup plus qu'il examine son associé. Il est associé avec quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Tout le temps, il lui téléphone. Ou alors, il va le rencontrer. Donne-moi, je vérifie les fiches de paie. Donne-moi, je vérifie combien tu as dépensé. Donne-moi, je vérifie combien tu as acheté. Donne-moi, je vérifie qu'est-ce qu'il reste à la banque. Donne-moi, je vérifie ceci, cela. Naam? Il a dit la même chose que tu dois faire avec ton âme. Tu vérifies tout le temps. Est-ce qu'elle est en train de suivre les préceptes d'Allah ou bien suivre les passions? Naam? Est-ce qu'elle va vers le chemin qu'Allah Ta'ala nous a tracé ou bien elle va vers sur le chemin du shaitan? Et comme ça. Deuxième phase, et il ne sera jamais pieux jusqu'à ce qu'il sache d'où provient sa nourriture. Il ne mange pas n'importe quoi. Et quand il a des doutes, il ne mange pas. Naam, il ne mange pas. Il y a des gens qui... Naam, ça ne leur dit rien. Ils rentrent chez le boucher, par exemple chez vous, et il dit, moi je m'en fous. Si c'est halal, halal. Si c'est pas halal, c'est lui qui va endosser. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Toi, tu as un cerveau, tu as la raison et tu réfléchis et tu peux prendre des décisions. Le boucher ne t'a pas obligé à acheter de lui. Naam. Et si tu ne manges pas de viande, wallah al-azim que tu ne vas pas mourir. Si tu ne manges pas de viande, il y a le poisson par exemple. Et si tu ne manges ni poisson ni viande, wallah al-azim tu ne vas pas mourir. Si tu ne vas vivre qu'avec les frites et les lentilles et le riz, wallah al-azim que tu vivras parmi les plus heureux. Naam. Et rien ne va te manquer et jamais tu ne tomberas malade et que peut-être tu seras plus en santé, en bonne santé que celui qui mange la viande. Subhanallah al-Azim. Donc le musulman, il pense à quoi? À son au-delà. Son capital, c'est quoi? C'est son din. C'est pas son ventre. C'est pas son ventre. Donc il réfléchit bien ce qu'il a mangé, ses vêtements. Est-ce qu'ils sont halal ou ils sont haram? À part l'argent avec lequel il les a achetés. Mais en eux-mêmes, c'est un habit que Allah Ta'ala aime et son prophète ou bien un habit interdit. Genre très court, si c'est ou alors court, si c'est pour la femme. Ou alors il montre des formes serrées, ou alors transparent, ou alors, et comme ça aussi pour l'homme. La même chose pour la boisson, il doit toujours voir est-ce que c'est licite ou c'est pas licite. Vous connaissez le hadith du prophète que toute chair, naam, qui est venue du suht, du haram, doit passer par l'enfer pour être fondue. Elle doit fondre en enfer d'abord, naam, déjà pour pouvoir entrer au paradis s'il y a paradis. Mais d'abord l'enfer pour faire fondre la chair qu'on a mangée de haram. Et avec l'argent. Ibn Urin, rahimahullah, a dit, lorsqu'Allah Ta'ala veut du bien à un serviteur, il lui accorde que son cœur l'exhorte, lui ordonne et lui interdise. Naam. Ibn Sirin, rahimahullah, le tabi'i est très connu, vous le connaissez, celui auquel on a monté, on a dit qu'il a un livre qui s'appelle Les interprétations des rêves de Ibn Sirin. C'est pas vrai, c'est pas lui qui l'a écrit. Naam. Mais il connaissait bien les interprétations, mais il n'a pas écrit ce livre. Al-Muhim, ceux qui l'ont écrit et ceux qui lui ont affilié le livre, c'est juste pour le vendre, bien sûr. Al-Muhim, qu'est-ce qu'il a dit, rahimahullah? Il a dit, lorsqu'Allah veut du bien à un serviteur, il lui accorde que son cœur exhorte, donne et lui interdise. Allahu Akbar. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te veut du bien, naam, c'est même pas que quelqu'un yani, te montre ou là, te dise voilà ce que tu dois faire, voilà ce qu'il faut pas faire. Allah Ta'ala va t'aider et faire que c'est ton cœur qui va t'exhorter. Naam, t'ordonner et t'interdire. Quand quelqu'un, masha'Allah, est sincère avec Allah Subhanahu wa Ta'ala et il a plus ou moins de la science, il va l'aider et yani, faire de son cœur un djundi, un soldat pour cette personne qui l'aide. Il lui met quelqu'un qui l'aide en lui. C'est quoi? C'est son cœur. Il va l'aider, il l'exhorte à faire le bien. C'est qu'il s'il veut faire quelque chose de haram, il lui fait aussi yani, un rappel. Il lui dit, Taqillah, ça se fait pas, éloigne-toi, et comme ça, aie peur d'Allah, crains d'Allah, crains Allah, et comme ça. D'ailleurs, il y a un hadith authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dommage que j'ai pas eu le temps de vous le traduire en français. Mais je vais vous le dire en arabe, je vais vous le montrer, je l'ai là en arabe. Et je vais le traduire, inshallah ta'ala, simultanément. Hein, vous dire à peu près, mais qui a rapport avec yani, l'exhortation du cœur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith, quand vous voyez à la fin, c'est écrit sahih, authentique. Sahih al-Jama' de Cheikh 3887. Que Allah subhanahu wa ta'ala daraba Allahu mathalan. Allah subhanahu wa ta'ala a fait, l'a donné exemple, comme disons une métaphore, pour que les yani, médite sur cette métaphore. C'est quoi? Il a dit, mathalan, sirat al-mustaqiman. Il y a un pont droit. Un pont droit. C'était sirat suran. Et à droite et à gauche du pont, hein, quand on passe un pont, il y a toujours des choses à droite et à gauche sur lesquelles on tient pour passer. Hein. Le pont, il y a toujours à droite et à gauche des choses sur lesquelles on tient, comme des rampes, deux rampes. Il a dit, et à droite et à gauche des rampes, à fond, il y a ni souran. Naam, à la djenbatesser. Au lieu d'avoir des rampes, il y a deux murs. Deux murs. Fihima abwab muftaha. Dans les deux murs, à droite et à gauche, il y a des portes ouvertes. Ouvertes. Mais sur ces portes ouvertes, il y a des rideaux. Des rideaux qui descendent du haut vers le bas. Il n'y a pas de porte. Elles sont ouvertes. Les pièces, les chambres sont ouvertes. Mais au lieu qu'il y ait de porte, il y a des rideaux. Une seconde. Et sur ce pont lui-même, sur ce pont, devant la porte, là on rentre le sirat, on commence le pont, il y a quelqu'un qui fait des rappels. Da'i. Il dit quoi? Ya Yuhannes, oh vous les gens, outrou le sirat jami'an. T'es tous sur le sirat. Montez sur le pont. Ou alors rentrez. Rentrez sur le pont. Fa'ida arad al-insan yiftaha shay'an min tilka al-abwab qal wayhak. Et maintenant, quand quelqu'un monte sur le pont, dès que quelqu'un veut ouvrir une de ses portes en poussant le rideau, il lui dit, Wayhak, attention, la teftahu, attention, n'ouvre pas la porte, n'ouvre pas en montant le rideau, n'ouvre pas. Fa'innaka in teftahu talijo. Si jamais tu vas ouvrir, tu vas rentrer. Si jamais tu vas ouvrir, tu vas te trouver à l'intérieur. Donc éloigne-toi, n'ouvre pas. C'est mieux. Ça y est. Ensuite, le prophète al-Islam a expliqué. Il a dit, Sirat, le pont, c'est l'islam. Le pont, c'est l'islam. Taïb. Les deux murs, c'est les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. À gauche, on marche au milieu, on ne doit pas dépasser les limites. Sah. Ou l'abwab, les portes ouvertes, c'est les interdictions d'Allah. Les interdictions. C'est pour ça qu'il lui a dit, attention, ne rentre pas. Si tu ouvres le rideau, tu fais monter le rideau, tu te trouves à l'intérieur. Tu te trouves en train de faire le haram. Et celui qui disait aux gens, monter sur le sirat, etc., il a dit, c'est le Coran, Kitabullah. Car c'est lui qui te guide. Il te dit, il faut être musulman, il faut être un bon musulman, il faut ceci, il faut cela. Non. Et l'autre exhortateur qui était sur Sirat, pas à son début, mais sur le Sirat, C'est quoi, il a dit? Wa'idullahi fi qalbi kulli muslim. Voilà le témoin du corps. Il a dit, l'autre, l'exhortateur, qui disait, attention, n'ouvre pas, ne fais pas ceci, il a dit, celui-là, c'est l'exhortateur du musulman, naam, que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans chaque cœur, dans chaque musulman. Dans chaque musulman, subhanallah, dans chaque cœur de chaque musulman. Donc, de ce hadith, on prend que chaque cœur de chaque musulman a un exhortateur, a quelqu'un qui lui fait le rappel. Vous allez dire que, par exemple, moi, je ne sens pas, je ne sais qu'à me faire un rappel. Je te dis, Naam, tu ne sens pas celui qui fait le rappel dans ton cœur, Naam, des fois il est presque mort. Naam. Naam, papa, yani, intéressé par l'islam, etc. Naam. Celui qui fait le rappel dans le cœur, des fois il est vivant, il est là tout le temps avec toi en train de te faire des inshallah, et des fois il est presque mort, des fois il est malade, des fois presque il s'endort, des fois. Pourquoi? Cela dépend de toi. Quand tu t'es loin du dîn, tu t'es loin de ce qu'aime Allah, tu vas dans les péchés, dans les... il t'exhorte pas, il te laisse. Mais dès que tu viens vers le dîn, tu commences à faire ce que Allah Ta'ala aime et ceci, cela, il commence à revivre avec toi. Il vit de nouveau. Naam. Il jette la poussière, il se lève. Ah, mais il commence à te dire, attention, fais pas ceci, fais pas cela. Tous les musulmans ont dans leur cœur quelqu'un avec eux qui les exhorte. Mais l'exhortation, comme j'ai dit, se fait d'après quoi? D'après, yani, ta foi, d'après ton amour d'Allah, d'après ta sincérité. Comme ça. Toi, tu trouves les salafs, par exemple, c'est rare qu'ils faisaient les grands péchés. Subhanallah. Mais pas tellement. Contrairement à nous. Peut-être du matin au soir, il y a des gens qui font les grands péchés. Pourquoi? Celui qui est dans le cœur et fait l'exhortation, n'âme, ne fait plus yani, son travail. Pourquoi? Parce que là, la personne est noyée dans les péchés. Mais si la personne veut aller vers ce que Allah Ta'ala aime, tu vas voir que tu vas sentir toujours quelque chose dans ton cœur qui t'exhorte, masha'Allah. Tu vas sentir, c'est comme s'il y avait une personne avec toi, qui vit avec toi dans ton cœur, qui te parle. Te dit, attention, taqillah, fais pas ceci. Où veux-tu aller? Tu veux l'enfer, taqillah. Et comme ça, masha'Allah, naam. Tayyib. Où est-ce qu'on était? Iyas ibn Muawiyah a dit, tout homme, Iyas ibn Muawiyah rahimahullah a dit, tout homme qui ne connaît pas ses défauts est stupide. Iyas ibn Muawiyah rahimahullah a dit, tout homme qui ne connaît pas ses défauts est stupide. C'est vrai. Tout homme, toute personne qui ne sait pas qu'elle a des défauts et quels sont ses défauts, elle est stupide. Pourquoi? Dans le sens où elle va être ce qu'on appelle en français, en arabe, maghrour, c'est-à-dire connaît ses défauts, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de les corriger. Et il va toujours sentir. Ça a coupé maintenant, vous m'entendez ou pas? Maintenant, est-ce que vous m'entendez ou pas? Alhamdoulilah. Mais quels que ses défauts, mashallah, ça, ce qu'il corrige. Naam, en arabe on dit maghrour. Maghrour. En français on dit il a l'autosatisfaction. C'est-à-dire il se croit qu'il est satisfait, qu'il est parfait, qu'il est mashallah. Celui-là c'est un stupide. Celui-là c'est un stupide. Naam. Le pieux, le vrai, c'est celui qui connaît ses défauts. Et il se dit je suis plein de défauts. Je dois corriger mes défauts. Puis tu te dis je suis mashallah, tu es stupide. Naam. Tayyib. Sofiane Thouri, rahimahullah, a dit, je n'ai pas eu affaire à plus difficile que mon âme. Une fois je perds, une fois je gagne. Subhanallah al-Azim. Sofiane Thouri, rahimahullah, a dit, je n'ai pas eu affaire à plus difficile que mon âme. Il n'y a pas plus difficile que yani, de combattre son âme et de la surveiller. Une fois je perds, une fois je gagne. C'est comme ça avec ton âme. Naam. Tu es du matin au soir en train de la surveiller. C'est toi qui gagnes, qui as le dessus sur elle. Tu as obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est elle qui te gagne et tu fais le péché. Mais au moins la personne se surveille. Au moins c'est surveillé. Au moins, comme il dit, il gagne de temps en temps. Mais le malheur, c'est quand la personne perd toujours, perd toujours. Hatim al-Asam, habitue-toi à chose. Habitue-toi à chose. Lorsque tu vas, rappelle-toi qu'Allah te voit. Lorsque tu parles, rappelle-toi qu'Allah t'entend. Et lorsque tu gardes le silence, rappelle-toi qu'Allah Azza wa Jal sait ce qui est en toi. Hatim al-Asam rahimallah a dit, habitue-toi à trois choses. La première, lorsque tu parles, lorsque tu œuvres, tu fais des actions, rappelle-toi qu'Allah te voit. Deuxième, lorsque tu parles, rappelle-toi qu'Allah t'entend. Troisième, lorsque tu gardes le silence, rappelle-toi qu'Allah sait ce qui est en toi. Car quand on garde le silence, on se parle en soi-même. On ne peut pas rester comme ça sans se parler. On se parle en soi-même, dans son cœur. Rappelle-toi qu'Allah, ce que tu es en train de dire dans ton cœur. Même, alhamdoulilah, s'il ne te donne pas des péchés, tant que tu ne l'as pas dit avec ta langue, c'est une ni'ma d'Allah. Imaginez que tout ce qu'on pense dans le cœur, Allah va nous donner des péchés. Ce serait grave. Des fois, il y a des pensées qu'on ne veut pas qui viennent dans le cœur. Mais alhamdoulilah, le hadith est authentique. Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'u tatahaddath. Tayyib. Donc il a dit quoi? Lorsque tu œuvres, tu fais des choses. Rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de te voir. Quand Allah subhanahu wa ta'ala est en train de te voir, si c'est une bonne chose, tu essaies de la parfaire. Si c'est une mauvaise chose, tu t'en éloignes. Tu dis A'udhu billah. Allah est en train de me voir, je fais cette chose. Naam. Et lorsque tu parles, rappelle-toi qu'Allah t'entend. Des fois la personne s'oublie, elle dit n'importe quoi. Ensuite, elle se rappelle, dit subhanallah. Allah est en train de m'entendre. Il m'écoute. Donc, je dois être pur à Allah subhanahu wa ta'ala. Je sais qu'il est en train de m'entendre, subhanallah l'adim. Imagine que, par exemple, quand la personne dise des choses qui ne sont pas bien, et qu'on lui dise, derrière le rideau, il y avait ton père qui t'entend. Alors que la personne était en train de dire, par exemple, des choses grossières. Des gros mots. Ensuite, on lui dit, derrière le rideau, il y avait ton père qui t'entendait. Il va devenir tout rouge. Il va dire, j'ai honte maintenant de rencontrer mon père. Celui-là, c'est seulement ton père. Naam, qu'en est-il? Allah subhanahu wa ta'ala est en train de t'entendre et toi, tu dis des mots yani, qui ne conviennent pas. Qui ne conviennent pas. Naam. Tayyib. Abdullah rapporte, je suis parti en compagnie de Ibn Omar vers la Mecque. Nous faisions une halte lorsqu'un berger descendit vers nous de la montagne. Et Omar lui dit, tu es pâtre, berger, c'est-à-dire, il a dit oui. Il a dit, vends-moi un mouton du troupeau. Il lui a dit, je peux pas, je suis esclave. Il lui a dit, alors, dis à ton maître que le loup l'a mangé. Le berger lui a dit, et Allah. Ne nous voit pas, ne nous a pas entendu. Omar lui a dit, et Allah. Et il se mit à pleurer, et il racheta l'esclave et l'a franchi. Il racheta l'esclave et l'a franchi. Abdullah ibn Dinar rapporte, je suis parti en compagnie de Omar Bukhta vers la Mecque. Nous faisions halte lorsqu'un pâtre descendit vers nous de la montagne. Ibn Omar lui dit, tu es pâtre? Il a dit, oui. Alors, vends-moi un mouton du troupeau. Il répondit, je suis esclave. C'est pas mon troupeau. Il lui a dit, dis à ton maître que le loup l'a mangé. Et l'autre lui a dit, le berger. Et Allah dans tout ça. Allah nous a pas vu, nous a pas entendu. Il sait pas que c'est pas le loup qui l'a pas mangé. Abdullah ibn Omar lui a dit, et Allah. Allah nous voit, Allah nous entend. Et il se rit, racheta l'esclave et l'a franchi. Quand il dit lui que le loup l'a mangé, il n'a pas le sens de le faire. Mais dans le sens de, comment on dit ça en français, de le tester. De le tester. Il y a pas quelqu'un dans le monde qui suivait la foi d'Abdullah ibn Omar et qui yani, soignait de l'Adi plus que Abdullah. Donc, s'il lui a dit cela, c'était juste pour le tester. Hein? Allez, donne-nous un mouton et dis à ton maître, le loup l'a mangé. Et on va voir ce qu'il va faire. Mais l'autre lui a dit, eh, quoi, Abdullah ibn Omar a personnalité, Masha'Allah, et qu'il est revenu vers Allah, alors il a pleuré et il a franchi l'esclave. Il l'a acheté et franchi. Comment il était content de lui, comment il s'est comporté, Masha'Allah. Abu Hafs Naysaburi, et mon cœur, Naam. Ah, barakallahu fik. Donc, le hadith de celui qui exhorte ce que je disais tout à l'heure. Allah Azzawajal propose en parabole un chemin droit. Et sur les deux côtés de ce chemin, il y a deux murs pourvus de portes ouvertes. Sur ces dernières se trouvent des rideaux baissés. Et à la porte du chemin, il y a un héros, Daï, qui crie aux gens, entrez tous dans le droit chemin et ne vous divisez pas. Il y a un autre héros au-dessus du chemin qui dira à l'homme qui veut ouvrir une de ces portes, mate-toi. Ne l'ouvre pas, car si tu l'ouvres, tu y rentreras. Ainsi, le droit chemin, c'est l'islam. Les deux murs sont les limites d'Allah Azzawajal. Les portes ouvertes sont les interdictions. Le héros à la porte du chemin est le livre d'Allah Azzawajal. Héros au-dessus de l'exhortateur d'Allah Azzawajal, de tout musulman, le cœur de tout musulman, rapporté par l'imam Ahmed Musnad, tome 4, etc., et jugé authentique par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, comme on vient de le voir. Barakallahu fik. Tayyib, que je disais? Abu Hafs al-Naysaburi, rahimahullah, a dit, j'ai surveillé mon cœur, puis il m'a surveillé pendant 20 ans. Puis nous nous sommes surveillés mutuellement. Puis nous nous sommes surveillés mutuellement. Non, c'est pas celui-là. La faute. C'est celui-là. Surveillé mon cœur pendant 20 ans. Il m'a surveillé 20 ans. Puis nous nous sommes surveillés mutuellement. Self, tout le temps se surveiller. Tout le temps surveille son cœur, le surveille. Tout le temps, lui, il surveille son cœur et son cœur le surveille. Bilal ibn Sa'd, rahimahullah, a dit, ne sois pas l'allié d'Allah en public et son ennemi en privé. Bilal ibn Sa'd, rahimahullah, a dit, ne sois pas l'allié d'Allah en public et son ennemi en privé. Allahu Akbar. الله أكبر السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين Est-ce que vous m'entendez, Inch'Allah? الحمد لله ابن القيم جزاك الله خيرا Quand tu ramènes comme ça un hadith ou là, بارك الله فيك pour les efforts que tu fais, Inch'Allah, حاول d'agrandir un peu la police, فهمت? Surtout que moi je vois pas bien de loin, donc essaye un peu d'écrire en gras une police, inshallah ta'ala, un peu plus grande. Al-Muhim. D'abord, je commence par dire, est-ce que le frère qui avait posé la fois passée la question sur comment concilier entre les deux hadiths des rawatib et le hadith qui dit que celui qui prie quatre avant dhohr et quatre après dhohr ne rentrera pas en enfer ou quelque chose comme ça. Deuxièmement, Muslim, quand il a parlé tout à l'heure des cas sociaux, etc., on veut dire par cas social, surtout les disputes qui se produisent dans le couple. Naam. En fait, c'est moi qui ai dit. J'ai dit que ces disputes-là, ça prend beaucoup de temps pour être rédigé d'abord. Et deuxièmement, c'est beaucoup plus familial et social que religieux. C'est-à-dire que des cas pareils, on fait appel seulement à la famille qui nous aide et on règle les problèmes. Non, mais on règle les problèmes. On veut dire pas, ce n'est pas religieux, religieux dans le sens où on veut savoir si c'est haram, si c'est halal, si c'est moubah, si c'est makruh. Aqida, ceci, cela, tout ça c'est religieux. L'autre c'est familial, c'est seulement familial. Ensuite, ce qu'il y a dans cela, c'est que quand une sœur, par exemple, se plaint, même quand un frère se plaint, non, nous qu'est-ce qu'on fait? On n'a entendu qu'une seule partie. On n'a pas entendu l'autre partie. Maintenant, la sœur qui s'est plainte, elle a pleuré. Si tu vas entendre son mari, tu trouves qu'il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas dites. Peut-être elle n'a pas fait exprès, elle n'a pas menti. Mais elle a oublié de citer beaucoup de choses qui auraient changé l'affaire. Et la même chose pour le frère qui se plaint. Si on va écouter sa femme, peut-être que ça, c'est pas du tout la même chose de ce qu'il a dit. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand la femme est allée se plaindre pour lui dire que mon mari me frappe quand je prie et me fait manger quand je jeûne et ne prie pas jusqu'à ce que le soleil se lève, il lui a dit, il lui a pas dit voilà tu as raison, mais il a écouté l'homme, il lui a dit et toi qu'est-ce que tu as à dire? Il a répondu. Mais s'il n'avait pas écouté l'homme, qu'est-ce qu'on aurait répondu? On aurait dit c'est grave, cet homme fait des choses graves. Il frappe sa femme quand elle jeûne, à fond. Quand elle prie, il ne laisse pas jeûner et il ne fait pas la prière jusqu'à 11h du matin. Al-Muhim. Troisième chose. J'ai quatre choses à dire, j'en ai dit deux. La troisième chose, jusqu'à de nos jours, beaucoup se plaignent de poser des questions sur le site, mais que leurs questions ne se lisent pas. Ne se dans le site. Et comment le site, il permet aux admins de. Comment qu'ils donnent les questions, comment qu'elles sont classées, comment, je ne sais pas. Je ne sais qu'une chose, c'est que les admins que j'ai choisis, Inch'Allah Ta'ala, ne font pas d'injustice. Et que s'ils ne lisent pas vos questions, c'est que vos questions n'arrivent pas, ou bien arrivent en retard, ou bien sont classées parmi les dernières. Al-Muhim, je dis, maintenant, quand c'est une question du cours, Alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Il y a le salon bis, là-bas, on pose spécialement les questions du cours. Et quand c'est une question qui n'est pas du cours, on va voir maintenant, je parle avec Muslim, est-ce que ce serait pas mieux que, par exemple, des fois, il y a un cours. On fait des questions, par exemple, sur le site, et on court les questions directement à main levée. Comme ça, les personnes qui ne peuvent pas poser leurs questions sur le site peuvent, en cette faveur ou cette chance, de lever la main. C'est ce que tu fais, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Et enfin, pour terminer, je dis, pour toutes les sœurs, surtout les sœurs, même les surtout les sœurs, qui disent que, on est embêté, on est embêté. Je leur dis, il faut fermer, Inch'Allah Ta'ala, vos PV. Pour bloquer vos PV, vous devez faire ce qu'il y a ici. Allez à File, ensuite Setup Préférences, Privacy, allez Allo, je ne sais pas comment ça se lit, Contact from pas list only. Je n'accepte que les contacts qui sont sur ma liste. Je n'accepte que les contacts qui sont sur ma liste. Je coche cette case, ensuite OK. Si c'est en français, je vais vous montrer. Je vais à Fichier, ensuite Configurer, Préférences, Confidentialité, autoriser uniquement les contacts de la liste d'amis. OK. Maintenant, si une personne ne va pas fermer ses PV comme je viens de le dire, c'est pas la peine qu'elle dise ensuite à l'admin, je suis embêté. Je dis, toute personne qui ne bloque pas ses PV, c'est pas la peine qu'elle aille à l'admin se plaindre et dire, je suis quoi? Je suis embêté. C'est toi qui veux être embêté. La preuve, tu fermes pas tes PV. Non, la preuve, tu fermes pas tes PV. Tfadla, Inch'Allah Ta'ala, pour la première question.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Non, cher, par rapport aux plaintes que vous avez concernant les questions des personnes qui n'arrivent pas à poser leurs questions sur leur site ou alors elle n'est pas lue, justement, on avait programmé avec le frère Ibn Mohamed, et une fois, quand on avait eu une réunion ensemble en room privé, on avait justement pris l'initiative de faire le samedi exclusivement donc les questions d'ordre général sur le site. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas en France, cher, et malheureusement ne peuvent pas rentrer dans le salon. Donc ils sont lésés eux également pour poser des questions. Donc pour justement ne pas créer d'injustice, on avait donc ouvert le site le samedi et le mercredi exclusivement, c'est sur les mains levées dans votre salon. C'est pour ça que ce soir, j'ai pris toutes les questions des mains levées et bien sûr dans l'ordre. Donc forcément, il y a des personnes, malheureusement, leur question ne sera pas posée. Par contre, cher, exceptionnellement, je vais demander de m'ouvrir le PV ce soir, parce que si j'ouvre le mien, ce soir je suis seul à prendre les questions, il va bugger parce qu'on va venir en PV et je vais avoir trop de PV et je vais être déconnecté. Je vais perdre toutes les questions. Donc, barakallahu fekoum, Si vous pouvez m'ouvrir le PV pour que je vous envoie les questions, Inch'Allah. Voilà, je vous ai envoyé une série de 4 questions, Inch'Allah, cher. Donc, je vous lis la première. Question d'un frère. Assalamu alaikum, cher. Barakallahu fikoum pour vos cours et qu'Allah récompense grandement les admins pour gérer la room ainsi pour votre site. Je voudrais savoir comment ressentir la sincérité de mon âme, car lorsque j'œuvre pour Allah en privé ou en public, j'ai toujours un waswas qui me fait douter de ma sincérité. Et je m'efforce de combattre en oubliant ces pensées, mais j'aimerais que mon âme soit domptée comme les salaf, Inch'Allah. Dois-je me contenter de peu d'actions en renouvelant mes intentions ou continuer à œuvrer et combattre ces idées? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher.
Walaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Ce qu'il faut faire, c'est le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est-à-dire continuer à œuvrer et combattre ses idées. Ensuite, à force de combattre, bi'idhnillahi ta'ala, tu vas voir que ces waswas vont partir. Naam. Ces waswas ne peuvent pas durer longtemps. C'est juste une phase, naam, une épreuve, c'est un test. Qui va gagner, toi ou bien eux, les waswas? Mais si tu vas, inshallah ta'ala, yani te maintenir, naam, et continuer à combattre, inshallah ta'ala, tu vas voir que ton âme sera apaisée bientôt, bi'idhnillahi ta'ala, puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider. Tfadhal.
Alors, question suivante, cher. Donc ça, c'est une question qui vous a été posée mercredi dernier. Donc je n'étais pas présent, mais a priori, c'est Ibn Mohammed qui vous a posé la question. Et vous avez oublié de répondre à cette question. Donc je vous la repose ce soir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous préserve et vous récompense pour le temps que vous nous consacrez. Cher, lorsque l'on subit une épreuve, à quel moment sait-on que l'épreuve devient insupportable pour nous et que l'on a touché le fond? Le fait de commettre plus de péchés ou des péchés que l'on ne commettait pas avant, notamment par négligence ou par nécessité, est-il un signe que l'épreuve devient trop dure et qu'Allah ne va pas tarder à nous sauver? Fadal, cher.
Je n'ai pas compris cette question, Mousseline. Je n'ai pas compris cette question. Tfadhal, si c'est possible d'expliquer.
Alaihi, je pense qu'elle veut savoir à quel moment on peut estimer que, ou alors à quel moment on peut sentir que c'est la fin de l'épreuve. Je pense qu'elle pose cette question. Si ce n'est pas le cas, que la personne me réponde en PV. Inch'Allah. Mais en fait, je pense qu'elle veut dire en fait, quand on est en pleine dans une épreuve, comment on sait que cette épreuve va se terminer? Alors, le but d'une épreuve, c'est justement de ne pas savoir. Tfadal, cher.
Je dis à cette personne, Naam, j'ai pas très bien compris la question, mais je sais que Naam, l'épreuve, on ne sait pas exactement, comme a dit maintenant le frère musulman, c'est quand sa fin. Mais une chose est sûre, c'est que toute personne qui passe en Allah, Allah Ta'ala va lui faire quoi? Va lui faire une solution. Allah Subhanahu wa Ta'ala, il l'allonge. Il rallonge dans l'épreuve. Pour voir est-ce que la personne va perdurer et endurer, ou bien elle va quoi? Elle va tout jeter et dire non, c'est difficile, je peux pas. Non, elle jette et dit non, c'est difficile, je peux pas. Allah Ta'ala veut voir de toi, est-ce que tu vas endurer? Non, et dire non, je sais que l'issue va venir, c'est une promesse d'Allah. Allah Ta'ala ne dit que la vérité. Allah Ta'ala promet, ça va venir. Je donne un exemple. Regardez le verset qui va venir maintenant. Hatta idha isti'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudibu ja'ahum nasruna. Fa nujiya man nasha' wa la yurdu ba'suna 'an al-qawmi al-mujrimin. Regardez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset. Regardez ce qu'il a dit. Quand les messagers faillirent perdre espoir et que leurs adeptes eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours et furent sauvés ce que nous voulûmes. Le témoin, c'est quoi? Quand les messagers faillirent perdre espoir, Naam, et que leurs adeptes, ils ont pensé, alors voilà que vient notre secours. Le secours, quand est-ce qu'il vient? Quand la personne, yani, presque elle va perdre espoir, elle va dire dans son cœur, yani, j'ai peur que, yani, il n'y a pas de solution. Là, elle va perdre espoir. Allah Ta'ala ne veut pas que tu arrives au point où dire, Ça, il n'y a plus d'espoir. Sinon, il va fermer les portes. Vous connaissez le hadith que Allah Ta'ala exauce à une personne tant qu'elle dise, j'ai pas été exaucé. Tant qu'elle dise, à fond, tant qu'elle dise pas, pourquoi je fais des doigts, j'ai pas été exaucé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, il veut pas laisser la personne arriver à ce point. Mais dès qu'elle veut perdre patience et perdre espoir, il lui donne le succès, bi'idhnillahi ta'ala, et l'issue, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, ce que je n'ai pas compris dans la question, est-ce que le fait de commettre plus de péchés ou des péchés que l'on ne commettait pas avant, notamment par négligence, je comprends. Mais elle a dit par nécessité. Commettre des péchés par nécessité, ça je ne l'ai pas compris. Comment peut-on commettre un péché par nécessité? Ça je ne l'ai pas compris. Naam. Fadlan Inch'Allah, la troisième question.
Alors, question suivante. Question d'une sœur. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous préserve et votre famille. Dans ce cours, on a vu qu'on doit toujours faire la correction de notre âme et ne pas être satisfait de nous-mêmes. Il y a des jours où j'arrive à faire tout ce que j'avais prévu comme acte d'adoration. Donc à la fin de la journée, je me sens satisfaite, pas au point de me sentir imbue de ma propre personne. Mais juste, je suis contente d'avoir augmenté ma foi en faisant des actes d'adoration. Et je suis contente car je me dis que, alhamdoulilah, j'avance petit à petit, etc. Ce que cela, est-ce que, Afwan, est-ce que cela est mauvais pour l'âme? Barakallahu fikoum, cher. Tfadal, cher.
Non, non, cela n'est pas mauvais pour l'âme et cela ne se contredit pas avec ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, c'est pour la personne qui croit, qui tout le temps pense comme ça. L'âme, tout le temps, et elle a quelque chose dans son cœur qui l'a fait, qui la rend orgueilleuse et qui se dit que je suis meilleur que les autres. Sinon, quand la personne fait certaines adorations et sent qu'elle est apaisée, et elle sent une faveur, halawa, comme quelque chose de sucré dans son cœur, une joie. Contraire, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il veut quoi? Qu'il veut yani, gratifier, il veut récompenser la personne pour avoir fait une bonne chose. Mais nous, ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est quand quelqu'un se sent tout le temps comme ça, et le shaitan va jouer de lui, et yani, il va ensuite rien faire. Mais quand une personne fait une bonne chose et qu'elle sent khouchou dans son cœur ou alors qu'elle a des larmes dans son yeux d'avoir fait une bonne chose, maalesh. D'ailleurs, dans les sept personnes que Allah Ta'ala va ombrager, il y a une personne qui, elle a invoqué Allah Subhanahu wa Ta'ala, elle a eu des larmes dans le cœur, dans les yeux. Avoir des larmes, c'est aussi une ni'ma que Allah Subhanahu wa Ta'ala a donnée. Na'am, c'est aussi une ni'ma que Allah Subhanahu wa Ta'ala a donnée. Tafadhal.
Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakum Allah, cher. Ma question est la suivante. Lorsqu'on lit le Coran sur un ordinateur, a-t-on la même récompense que si on le lit sur le mushaf? Jazakum Allah khayran. Tfadal, cher.
Alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Vous m'avez pas répondu si le frère était là, celui qui avait posé la question sur les rawatib. Sur les rawatib. Quant à la question du Coran sur le mushaf ou sur l'ordinateur, je ne connais pas sa réponse. Celle-là aussi, bi'idhnillahi ta'ala, je chercherai, je rendrai la réponse la fois prochaine, bi'idhnillahi ta'ala. Même si je pense que l'essentiel c'est de lire le Coran. L'essentiel c'est de lire le Coran. Mais peut-être que sur le livre, ça a quelque chose de. Allah subhanahu wa ta'ala alam. De toute façon, je me rappelle maintenant un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve dans Sahih al-Albani, Sahih al-Jami'a. Il a dit, quiconque veut aimer Allah, qu'il lise du livre. Quiconque veut aimer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il lise du livre. Mais même ici, quand il dit qu'il lise du livre, peut-être que ça a le sens que, c'est-à-dire que c'est mieux que celui qui lit sans livre. Il lit comme ça de son cœur. Hein, sans voir ni livre, ni ordinateur, il lit comme ça de son cœur. Mais que peut-être lire. Si peut-être lire du livre. Wallah alam. Mais pour être plus sûr, inshallah ta'ala, je préfère donner une réponse des savants dans le prochain cours, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadhal.
Ah, cher, donc il y a une sœur qui vient de me contacter en PV, qui me dit Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. C'est moi qui ai posé la question sur les rawatib. Donc ce n'était pas un frère, cher, mais c'est une sœur apparemment. Tfadal, cher.
Non, alhamdoulillah, que ce soit une soeur ou un frère, alhamdoulillah, c'est la même chose. Taïb, je dis, donc la réponse, si j'ai lu la réponse, Allah Ta'ala, ils ont dit, là, que le hadith qui dit que quiconque qui prie 12 rakat, que Allah Subhanahu wa Ta'ala lui construit une maison dans le paradis, et le hadith qui dit que s'il prie 4 avant d'or et 4 après, qu'il sera yani, épargné de l'enfer, ils ont dit ces quatre du deuxième hadith qui parlent de l'épargnement de l'enfer, et les quatre avant et les quatre après, ils ont dit ce sont aussi, yani, ça rentre aussi des rawatib. Ça rentre aussi, c'est-à-dire qu'il est en train de parler ici, alayhi salatu salam, il est en train de parler des rawatib. Donc, on va dire, quand quelqu'un va prier par exemple les 12, avec l'intention qu'il veut la maison du paradis. Donc il va prier 4 avant et combien après? 2. 2 après d'or. Non. Ils ont dit maintenant après avoir terminé 2 après d'or. S'il veut rentrer aussi dans le hadith de être épargné de l'enfer, alors qu'il ajoute 2 autres avec la niya que pour que ça fasse 4 pour en même temps aussi être épargné de l'enfer. Non. Mais s'il suffit aux 2 seulement après d'or, yani, il a eu au moins la maison du paradis, bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Tfadlal.
Ah, cher, donc je vous ai envoyé les quatre questions suivantes et je vais essayer donc de lire la première rapidement parce que c'est surtout la fin qui est importante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum, qu'Allah vous comble de ses bienfaits, cher, et vous récompense grandement. Je suis marié depuis 3 ans, donc c'est la question d'une sœur. Je suis marié depuis 3 ans, nous avons une fille de bientôt 2 ans. Je souffre dans mon couple, je ne l'aime pas, ni le supporte. Il me violente même au visage, il veut m'empêcher d'apprendre la science, ne me motive pas. Quand je manque des cours par baisse de foi, il dit que j'interprète mal, que je n'applique pas bien et que je n'ai pas besoin de la science. Il me maudit souvent lorsque nous disputons. Il est passionné par le foot. Je souhaite me séparer de lui. Il ne veut pas m'accorder le divorce. Il ne veut pas divorcer. Je souffre de cette situation. Je ne l'aime pas et je crains de manquer à mes devoirs et de devenir désobéissante dû au fait que je ne supporte plus du tout ces conflits incessants. Il ne veut pas me quitter et aime beaucoup sa fille. Une des causes qui fait qu'il refuse le divorce. Je ne souhaite plus d'enfant de lui. Il y a quelque temps de cela, une chose. Depuis quelque temps, une chose me trotte dans la tête. Qu'Allah me pardonne. Je demande la protection d'Allah Ta'ala. Je souhaiterais vivre la sunna de mon dîn à fond, mais je ne peux pas car j'ai des barrières. Je souhaiterais mourir dans la soumission et dans l'adoration, mais pour cela, j'ai besoin d'un époux qui m'aiderait à accomplir ceci. On aime notre fille et j'essaie de lui donner une éducation purement religieuse. Walillahil hamd. Je suis désespéré de cette situation. Donc je reviens à ce qui me trotte dans la tête et je jure par Allah que ceci est dans le but de me rapprocher de mon Créateur et avant tout pour mieux adorer mon Créateur. Et il n'y a pas d'obéissance dans la créa... dans la... il n'y a pas d'obéissance au Créateur pour une désobéissance. Il n'y a pas d'obéissance à la créature, plutôt à la créature, elle est mal rédigée la question. Il n'y a pas d'obéissance à la créature pour une désobéissance au créateur. Car il est vraiment attaché à elle s'il accepte la séparation. Je me dis que si je fais une dua contre elle, pour qu'Allah nous l'ôte, est-ce de l'ingratitude, une mauvaise chose ou peut-être un bien pour tous les deux afin de pouvoir se reconstruire par la suite chacun de son côté. Et je vous répète que ceci n'est pas une intention, n'est qu'une intention sincère. Qu'Allah vous récompense, cher. Désolé pour la longueur de la question. Jazakumullah khairan. Ah, la question est très longue. Et faites attention à la rédaction, Inch'Allah, parce que ça rend difficile la lecture. Donc la finalité, chère, elle demande si elle peut faire des duas contre sa fille pour qu'Allah la... pour qu'elle meure. Subhanallah. Tfadha, cher.
Non, c'est interdit. C'est interdit. Non. Subhanallah al-Azim. Qu'a fait la fille? Qu'a fait la fille miskina? Non. Où est la faute de la fille? Où est la faute de la fille? Regardez le verset qui va venir, une seconde. Donnez-moi juste un peu de temps pour le faire sortir, une seconde. Une seconde. Une seconde. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, subhanallah, il s'est prosterné devant la Kaaba. Des kuffars sont venus et lui ont mis sur son cou de la saleté, de la souillure, etc. Ensuite, Fatima, radiallahu ta'ala, sa fille, est venue vers lui, l'a aidé, lui a enlevé la souillure de sa tête alors qu'il était prosterné. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est rassis, et il a levé les mains et a commencé à faire des doigts contre les kuffars. Pas des musulmans, des kuffars. En faisant des doigts de maudissement. Ya Allah, maudit X. Ya Allah, maudit Y. En les citant avec les noms. Ya Allah, maudit X. Ya Allah, en les citant. Comme ça, avec les noms. Ce sont des kuffars. Il a demandé seulement de les maudire. Pas qu'ils meurent, seulement. Allah Ta'ala a vite fait descendre un verset où il dit, écoutez ce qu'il lui a dit. Tu n'as, ya Muhammad, tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Peut-être Allah accepte le repentir. Il va rentrer en islam. Ou bien il les châtie. Ils sont bien des injustes. Il lui a dit en arabe, Laysa laka min al-amri shay. Ya Muhammad, tu n'as rien dans cette affaire. Allah, il accepte mon tir ou bien il embrasse, bien il va embrasser l'islam. Pour des kuffars, il a demandé seulement de les maudire, pas accepter la terre. Il lui a dit, tu n'as pas à te rentrer en cela. Comment maintenant un musulman, je lui demande qu'il meure et il n'a rien fait. Il est même pas pubère. C'est-à-dire, s'il fait des fautes, rien ne se marque contre lui. Il est innocent. Et tout cela, quoi, à cause du mari. Comme ça, s'il n'y a plus la fille, yani, ils peuvent donc divorcer. C'est d'après ce que j'ai compris. Allah Ta'ala. La solution, ce n'est pas celle-là. La solution, c'est de demander le khula, c'est de lui rendre la dot et de demander à un imam ou bien à vos parents ou bien de vous séparer. Même s'il n'accepte pas le divorce, il sera obligé dans ce cas-là, si quoi, si vous demandez aux deux familles de rentrer au milieu pour vous séparer et lui rendre la dot. Et lui rendre la dot comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, qu'il fasse une solution à notre sœur incessamment. Et qu'il la libère de cette mauvaise personne si ce qu'elle vient de dire. Et réalité. Si ce qu'elle vient de dire est réalité, ça devient donc une vie d'enfer. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faire une issue prochainement. Naam. Tfadl.
Question suivante, cher. Question d'une sœur. Ahsan Allahu ilaykoum, cher. Vous avez dit que notre âme nous incite à faire du mal et que c'était comme une bête sauvage qu'il fallait dompter. Pour les personnes ayant un djinn, comment savoir si les mauvaises pensées et actions viennent du djinn ou de notre nafs? Tfadal, cher.
Les personnes qui ont un djinn, qui sont possédées par un djinn, naam. Des fois il est musulman, des fois il est kafir. S'il est musulman, s'il est kafir, c'est clair. C'est clair. On va voir que la personne maintenant, elle insulte beaucoup l'islam, ceci, cela, alors qu'elle est connue que c'était une personne qui ne faisait jamais cela. Dans ce cas, si ce n'est pas elle qui parle, et si ce n'est pas elle qui fait, dans ce cas, devant Allah subhanahu wa ta'ala, elle est excusée. Mais nous, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas si c'est vraiment le djinn ou bien c'est elle qui fait exprès. On ne sait pas. Quant à elle, la personne, elle sait en même. La preuve, si elle dit quelque chose qui n'est pas bien, tu lui dis pourquoi tu as dit cela. Elle te dit, Wallah l'adim, que ce n'était pas moi. Et que je n'ai pas fait exprès. Et qu'il y a quelqu'un qui parle en moi. Et que je m'entendais. La personne qui a un djinn, elle s'entend. Quand elle est en train de parler, elle s'entend. Après, elle te dit, voilà ce que je disais, c'est-à-dire, voilà ce qu'il disait, j'entendais, mais ce n'est pas moi qui parlais. Ce n'est pas moi qui parlais. Je dis, le djinn, Wallah, elle doit faire beaucoup de ruqya, naam, et demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'éloigner d'elle ce djinn. D'éloigner d'elle ce djinn. Car quoi? Car nous qui sommes pas dans son corps, on ne sait pas exactement qui est en train de parler, qui est en train de faire. C'est pour ça que les savants sont unanimes pour dire que si une femme dit le bébé que j'ai, ou bien maintenant je suis enceinte, c'est à cause du djinn que ce n'est pas accepté. Que ce n'est pas accepté. Aucune femme ne peut dire je suis enceinte car c'est un djinn qui m'a fait cela. Même si le djinn fait cela, le djinn des fois, il vient à la femme et fait avec elle ce que fait un homme avec sa femme dans le rêve. Naam. Ou alors même dans la réalité comme ça. C'est elle qui le voit. Mais les savants disent que jamais ce n'est accepté. Pourquoi? Sinon, on va ouvrir une grande porte. C'est pas une porte, un garage. On va ouvrir un garage à qui? À toutes les femmes mauvaises et qui ont une mauvaise intention de faire le haram et de dire que c'est quoi? C'est le djinn qui m'a fait cela. Le djinn m'a fait cela. Donc la personne devrait faire des doigts et demander à Allah subhanahu wa ta'ala, yani, d'éloigner d'elle son djinn et de voir comment inshallah ta'ala le faire sortir. Naam, tfadlal.
Question suivante, chère, question d'une sœur. Ahsanallahu alaykoum, chère. Qu'Allah azawajal vous récompense pour tous ces cours bénéfiques et qu'il ta'ala fasse de vous un de ses alliés ainsi que nous et tous les frères et sœurs. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir quel est l'avis des savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a sur le fait de filmer et également comment réagir lorsque nous sommes face à des images sur des produits tels que les pots de yaourt, les boissons, les couches pour bébé ou sur des vêtements achetés, avant d'avoir su cette interdiction. Est-ce que le fait de cacher les yeux suffise ou doit-on cacher tous les caractères du visage, yeux, nez, bouche ou supprimer toute la tête, sachant que les images d'êtres animés sont interdites et suite aux nombreuses menaces du prophète, alayhi salatu wa salam, sur cela, je suis très strict et je fais tout mon possible pour empêcher toute image d'entrer dans la maison. Et de même pour les vêtements de mon enfant. Je voudrais savoir si je n'exagère pas, car ma famille me prend en raillerie et me dit que j'en fais trop. Barakallahu fekoum, wa jazakumullahu khairan, et pardonnez-moi pour la longueur de ma question. Afin, pourriez-vous dire au cher si je peux enregistrer sa réponse pour la faire écouter à ma famille. Barakallahu fekoum. Tfada cher.
Qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle a dit également comment réagir lorsque nous sommes face à des images sur des produits tels que les pots de yaourt, les boissons, les couches pour les pots de yaourt et les boissons. Ce qu'elle veut dire que des fois sur les pots de yaourt et sur les bouteilles de limonade, etc., il y a des photos. C'est ce qu'elle veut dire. Non, comme la vache qui rit, etc. Non, je dis. Allahu ta'ala alam. Mais ici, il y a une question ici. Bon, Taïb, je crois qu'il y a deux questions. L'une pour le fait de filmer et la deuxième pour yani, les photos. Pour le fait de filmer, ce que je sais, Allahu ta'ala alam, c'est que yani, même pour filmer, on ne doit filmer que si vraiment on doit filmer. Non. Il y a beaucoup de gens qui pour rien, ils filment. Ils filment. Si tu filmes la nature, ça ne fait rien. Tu filmes la mer, les arbres, la forêt, les nuages, tout cela, il n'y a aucun problème, inshallah ta'ala. Est-ce quand on filme les gens, les animaux, etc., je dis Allahu a'lam, de préférence de ne pas filmer s'il n'y a pas yani, un besoin. S'il n'y a pas un besoin. De toute façon, les savants ont dit que, yani, quand on compare ce qu'ont dit les savants sur le fait de filmer, le fait de photographier, on va trouver que ils ont été beaucoup plus sévères sur le fait de photographier que le fait de filmer. C'est pour cela que si tu vas par exemple à l'un des savants, tu lui dis je voudrais te photographier, il n'accepte pas. Si tu lui dis je te filme, alors qu'il est en train de faire un cours, il y en a beaucoup qui acceptent et ce sont des grands savants. Pourquoi? Parce qu'ils disent filmer, c'est yani, c'est en direct. Non, filmer, c'est en direct. Photographier, non. Photographier, c'est prendre une photo, ensuite la photo va rester comme ça. C'est pour ça que les savants, quand ils parlent de la télé, quand on est dans la maison, ils disent la télé, c'est des photos qui viennent et qui partent. Non, c'est pas comme avoir une photo, par exemple, dans un cadre et la laisser comme ça devant toi. À la télé, ils disent les images, elles viennent et elles partent. Elles partent, elles ne restent pas stables. Elles ne sont pas stables. Elles moyennes. Donc je dis que Si on peut ne pas filmer, c'est mieux. Maintenant, si on filme, si on n'a pas le choix entre filmer et photographier, filmer, c'est mieux que photographier. Filmer, c'est mieux que photographier. Pour les photos qui se trouvent sur les produits, etc., là, des fois, ce n'est pas de notre faute. Des fois, ce n'est pas de notre faute. C'est comme a dit, par exemple, ici, l'Akh Mouslim, par exemple, j'ai envie de manger la vache qui rit. Par exemple, est-ce que maintenant, parce qu'il a la photo de la vache, de sa tête, que je vais me priver de quoi? De la vache qui rit. Ensuite, les savants ont dit, ce qui est interdit dans la photo, c'est quand il y a quoi? C'est quand il y a tout l'animal ou toute la personne. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la photo, c'est la tête. Comme ça, il a dit. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de tête, il n'y a plus de photo. La photo, c'est la tête. C'est-à-dire, quand on a une photo complète, si on veut qu'il n'y ait plus de photo, on enlève seulement la tête. Quand on enlève la tête, il n'y a plus de photo. Bi-idhnillahi ta'ala. Maintenant, si on achète, par exemple, une boîte de vache qui rit, par exemple, on peut quoi? On peut enlever peut-être, yani, la vache qu'il y a. Après l'avoir emmenée à la maison, on enlève. Par exemple, si on peut. Si ça s'enlève, je ne sais pas si ça s'enlève, j'ai jamais essayé. Si on peut l'enlever, on l'enlève. Si on peut pas, elle est là, jetée dans le frigo. Elle n'est pas là pour que je la mette en face de moi, ni pour que je la mette dans le cadre. Comprenez? L'âme, elle a dit ici, l'âme, est-ce que, elle a dit, est-ce que j'exagère ou j'exagère pas? Je dis, hein, celui qui fait des efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, on dit jamais de lui qu'il a exagéré. Celui qui fait des efforts pour, yani, adorer Allah subhanahu wa ta'ala et la peur de Allah subhanahu wa ta'ala, on dit jamais de lui qu'il a exagéré. Mais on dit que c'est une personne qui fait des efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, elle fait de son mieux. Elle fait de son mieux. Mais je dis à cette personne pour terminer, naam, quand une chose, on peut l'enlever, on l'enlève. Mais des fois, quand une chose nous dépasse pas, on fait juste ce qu'on peut. On fait juste ce qu'on peut. Si on peut enlever la tête, on l'enlève. Si on peut barrer le visage avec du stylo, on barre. Et comme ça. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, craignez-le autant que vous pouvez. Craignez-le autant que vous pouvez. Car des fois, il y en a. Tu es obligé de trouver ces images, même si tu fais le possible. Des fois, tu trouves ça sur des cartables, sur des cahiers, sur l'ardoise, sur la gomme, sur le stylo, sur. Non. Surtout dans les pays où on ne donne pas d'importance à cela. Donc, la personne, qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'elle peut, bi-idhnillah ta'ala, Allah ta'ala ne lui demande pas ce qu'elle ne peut pas. Tfadlal.
Question suivante, cher. Question d'une sœur. Salam alaikum, cher. Qu'Allah Azzawajal nous aide à appliquer ce qu'il aime et agrée et nous éloigne de ce qui le met en colère. Amin. Ma question est, vous avez cité plusieurs ennemis que l'on doit combattre, dont le nefs, afin de le dompter, et notre ennemi déclaré shaitan. Comment savoir que c'est notre âme qui nous incite à un mal ou que cela vient d'une ruse de shaitan afin de les affaiblir? Bi-idhnillah. Barakallahu fikoum, cher. Tfadash.
Walaykoum salam rahmatullah. Entre le shaitan et notre âme, presque dans tous les cas, l'âme se met d'accord contre nous. L'âme. Vous savez que l'âme, il y a trois sortes. Des fois, elle est apaisée, mashallah. Des fois, elle est révoltée. L'âme. Et des fois, elle est ce qu'on dit, si on peut, elle est du genre, yani, elle regrette. Elle regrette ce qui s'est passé et te dit pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela. Quand c'est comme ça, c'est mashallah. Mais des fois, elle est révoltée. Quand elle est dans l'état où elle est révoltée, le shaitan, yani, profite de l'occasion. S'il sait que maintenant elle est contre toi, alors lui aussi, il va être d'accord avec elle et pour essayer de te faire, yani, des désobéissances. Al-Muhim, il n'y a rien comme ça, yani, qui puisse te dire que maintenant c'est ton âme ou bien c'est le shaitan. Toi, quand tu sens que tu veux faire une désobéissance, tu dis A'oudhou billahi minash shaitanir rajim et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider contre ton âme et contre shaitan. Et contre toute tentation qui voudrait te faire désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'essentiel, c'est quoi? C'est de ne pas désobéir. C'est beaucoup plus important que de savoir si c'est nafs ou si c'est shaitan. Car il n'y a pas comme ça quelque chose qui peut te dire c'est nafs ou c'est shaitan. Donc, Issan, il y a il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de quoi? D'éloigner de lui, yani le péché. Et c'est ça, inshallah ta'ala, l'essentiel. Regardez une seconde le verset que je vais citer, une seconde. Une seconde, le verset que je vais citer. Une seconde. Attendez, si je trouve le verset là-bas pour vous montrer, et vous donner une idée. Il y en a beaucoup, dommage. Seconde. Non, regardez le verset de Yusuf alayhi salam. Où il a dit, Rabbi, si je dois habou il y a mi ma t'ed'ounani ilay. Wa illa tasrif anni kaydahuna asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin. Wa akun min al-jahilin. Oh mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce que à ceux à quoi invitent les femmes pour faire la zina. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elles et serai du nombre des ignorants. L'essentiel dans quoi? C'est de faire des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala, d'éloigner, yani de m'éloigner du péché. Ya Allah, si tu ne m'écartes pas, tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elles et serai du nombre des ignorants. Donc il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de quoi? D'éloigner de lui leur ruse. C'est ça l'essentiel. Il n'a pas cherché, est-ce que c'est mon nefs, est-ce que c'est Shaitan? Allah, éloignez de moi leur ruse, sinon je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants. Regardez comment les gens demandent à Allah subhanahu wa ta'ala secours, alors que c'est un nabi, c'est un prophète. Et malgré cela, il a su que yani, la zina, etc., c'était quelque chose de vraiment, yani, les tentations des femmes et du nefs, c'est vraiment difficile. C'est pour ça qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala d'éloigner de lui les ruses des femmes et les tentations du shaitan. Naam. Tfadlal.
Question suivante, cher. Question d'une sœur. Qu'Allah soit satisfait de vous et vous récompense par le Firdaus el-Ala. Je suis désolé pour la longueur de ma question concerne la prière et plus exactement la doua du Qunut dans la prière. En fait, il y a une mosquée dans un village d'où habitent une sœur et son mari, de laquelle la mosquée tous les matins, à la prière du Subh, à la levée du deuxième recours, l'imam fait la doua du Qunut. Et ceci tous les jours. Le truc, c'est que cette sœur avait lu dans un livre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait cette doua durant la prière du Sobh, mais seulement de temps en temps. Quelqu'un de son entourage lui avait dit aussi qu'on pouvait la faire durant le witr, mais elle n'a pas trouvé les adillah. Le livre en question, c'est la voix du prophète, alayhi salatu wa salam, un livre bleu résumé de Zad al-Ma'ad, écrit par Ibn al-Qayyim. La question est la suivante. Si faire la doua tous les jours est une bid'a, comment doit faire le mari de la sœur qui est le seul à ne pas prier de cette façon dans tout le village? Quel comportement adopter? À quel moment peut-on faire cette doua? Wa jazakumullahu khayran. Tfadal cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatouh. Je dis, quand le matin, ça rentre dans la bida. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Mais il a fait cette doua une fois, c'est-à-dire dans un certain temps où on avait tué beaucoup de ses compagnons qui apprenaient le Coran. Alors il a fait cette doua, mais le problème, il n'a pas fait cette doua seulement pendant Salat Subh. Mais il l'a faite dans les prières. C'est pour cela que nous on dit, si une personne, il arrive quelque chose dans le pays, par exemple, là, une fitna comme ça, une grande fitna par exemple, et que le gouverneur nous ordonne de faire des doigts, C'est permis alors d'en faire, mais dans toutes les salades, Sobh, Dor, Asar, Maghrib, Isha, des fois Asar, des fois on fait Isha, des fois on fait Sobh, des fois on fait Dor. Et pas spécialement à Sobh. Mais si quelqu'un fait spécialement, comme me raconte cette sœur, spécialement à Salat Sobh, il a fait tout le temps à Salat Sobh, ça rentre dans la bid'a. Mais je lui dis autre chose. Les savants ont dit, d'ailleurs on a posé cette question à Cheikh Rabih Hafidhahullah. On lui a dit à quelqu'un dans une autre mosquée, l'imam qui fait la doua du Qunut chaque matin. Moi je prie derrière lui, est-ce que je fais cette doua ou je fais pas? Il a dit, tu fais la doua derrière lui. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant de certains imams, il a dit, yusalluna lakum, ils vont vous guider. Fa'in asabu, s'ils prient juste, fa'lakum wa lahum, vous avez des récompenses, ils ont des récompenses. Wa in akhta'u, s'ils font faux, fa'lakum wa alayhim, vous avez des récompenses, ils ont des péchés. Donc, tu vois que dans tous les cas, quand tu pries un imam, dans tous les cas, tu as des récompenses. Et que des fois, lui aussi, il a des récompenses avec toi, et des fois, non. Toi, tu as des récompenses et lui des péchés. Mais jamais toi des péchés, lui des récompenses. Alhamdoulilah, c'est une ni'ma, une grande ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, la mosquée où je prie ici, où je prie, dans mon quartier, chaque matin, il fait la doua de ce que cite ici la sœur, de Qunut, chaque matin. Et moi, derrière lui, je fais en me disant dans mon cœur, c'est une bid'a. Mais, Inch'Allah, j'ai des récompenses et lui, il va payer au Qiyamah pour avoir fait cette bid'a. Bien sûr, lui, il va dire que on lui a quoi? On l'a forcé. Non, il y a. C'est venu du ministre. Il dit, vous devez faire ça. Donc peut-être que lui aussi, il est excusé demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le ministère qui va endosser. Wallahu ta'ala alam. De toute façon, celui qui prie derrière lui, il n'a rien et il fait comme lui. Et il a, inshallah ta'ala, des hasanat. Et l'autre, Allah alam, peut-être qu'il a des péchés ou peut-être qu'il est excusé, comme je viens de le dire, inshallah ta'ala. Tafadhal.
Question suivante, question d'une sœur. Ahsanallahu ilaykum, barakallahu.
Afwan, si je t'ai donné le rouge, barakallahu fik, c'est juste que je voulais dire cette phrase, sinon je vais l'oublier. Bien sûr, il faut oublier que quoi? Que si jamais il y a deux mosquées, et qu'il y a une autre mosquée proche où on ne fait pas cette doua, il vaut mieux, inshallah ta'ala, aller à la mosquée où il n'y a pas cette doua, bi'idhnillahi ta'ala. Naam, tfadhal.
Alors, question suivante, cher. Donc, question d'une sœur. Ahsanallahu ilaykum wa barakallahu fikum, cher. Comment conseiller entre les asar cités durant le cours et celui-ci? Celui qui se fait des reproches en public se fait en réalité des compliments. Et comme est mauvais ce qu'il fait. Al-Hasan al-Basri wa jazakumullahu khayran. Tfada, cher.
Attendez, alaykoum salam, j'ai pas encore bien compris les yani ce qu'elle a dit. Ensuite, celui-là, elle a dit celui-ci. Bien sûr, celui-ci, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle qui l'a rapporté. Elle a dit que Hassan Basri a dit, il a dit quoi? Celui qui se fait des reproches en public se fait en réalité des compliments. Et comme mauvais ce qu'il fait, Naam. Je crois qu'on l'a cité une fois, Allah alam. Donc, comment concilier avec cela? Il est athar cité en cours. Cité en cours. Naam. Donc, Muslim, est-ce que tu vois, toi, où est la contradiction? Naam. Est-ce que tu vois où est la contradiction? Donc, les athar cités en cours, ça parlait de quoi? Ça parlait d'une personne qui, yani, ne se fait pas de reproche à son âme. Naam. Et ici, il dit celui qui se fait des reproches en public. Non, en public, ça veut dire devant les gens. Quand il est seul, il ne se fait pas de reproches. Et quand il est devant les gens, il veut se montrer que il se fait des reproches et qu'il va se punir, il va ceci, il va cela. En fait, c'est comme s'il faisait des compliments. Il veut montrer aux gens que moi, je suis quelqu'un qui me fait des reproches. Moi, mon dîn, yani, je ne laisse pas passer comme ça les choses facilement. tandis que nous, on parlait de celui qui se les reproche quand il était seul, pas devant les gens. C'est pour cela qu'il n'y a pas de contradiction. Nous, on parlait des gens où on devait, comme il a dit l'autre, on doit faire des actes tout seul. Et il doit se parler. Et le affaire de Omar, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il est rentré dans un jardin, je l'ai entendu dire, c'est-à-dire tout seul. C'est pas devant les gens. Mais celui qui se fait des reproches devant les gens, ça veut dire il se fait des compliments. Non. Donc il n'y a pas de contradiction, inshallah ta'ala. Tfadhal.
Ah, ma question suivante, cher, question d'un frère. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous accorde le Firdaous ainsi qu'à tous les croyants et toutes les croyantes. Amin. Je suis un frère de France et je voudrais savoir si c'est permis, lorsque l'on pratique la pêche en mer à l'aide d'une canne à pêche, si on peut utiliser comme appât des vers de terre vivants, sachant qu'il faut les transpercer pour les accrocher sur l'hameçon. Est-ce de la maltraitance envers les animaux? C'est l'une de vos spécialités, cher. Donc, Inch'Allah, vous connaissez la réponse. Toi, Dal, cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Justement, non. Justement, non. C'est pas ma spécialité. C'est pour ça que, inshallah ta'ala, la semaine prochaine, je lui donnerai la réponse, inshallah ta'ala. Car moi, quand je pêche sous l'eau. C'est-à-dire, je rentre, je descends, l'âme, et je vois ce qu'il y a sous les rochers. Et quant à cette personne, elle parle que elle reste dehors, elle est sur le rocher, et elle pêche avec quoi? Avec une ligne. Quant à moi, non, je descends qu'il y a dans le fond, donc c'est pas du tout la même chose. Non, moi je pêche avec un Wesmo, comment ça s'appelle, avec un fusil à harpon, un fusil à harpon, et la nuit, pas le jour, la nuit avec la torche. Donc c'est la même chose. Je lui donnerai inchallah ta'ala la réponse la semaine prochaine, là et ta'ala, pourvu que j'oublie pas. Tfadlal.
Un barque, là, on fait comme cher. Là, je pensais que vous pêchiez également au lancer. Alors, question suivante, question d'un frère. Ahsan Allahu ilaykoum, cher. Vous avez dit qu'Allah ne prend pas en compte nos pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je me rappelle que l'imam de notre mosquée nous avait dit cette même parole, mais qu'il avait ajouté que ceci s'appliquait à tous, sauf les habitants de Mecca et Médina, et que ces derniers seront interrogés sur leurs pensées. Est-ce une parole véridique? Et si oui, quel est le dalil? Barakallahu fikoum wa hayyakoum Allah. Tfadal, cher.
Toufir ibn al-Qayyim, est-ce que tu es avec nous? Toufir ibn al-Qayyim, est-ce que tu es avec nous? Alhamdulillah. Chauffe, essaye de noter les questions qui, je dis de ces questions que je réponds la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Comme ça, quand on termine le cours, tu me les donnes, bi'idhnillah ta'ala. Donc, il y a celle-là, celle de des vers pour la pêche. Une autre que j'ai oubliée maintenant. J'ai oublié maintenant. Eh, voilà. Et l'autre, ça parle du Coran. Lire le Coran sur ordinateur, est-ce que c'est comme le lire sur le livre, Inch'Allah ta'ala. Donc, de Taïb. Vous avez dit que Allah ne prend pas en compte nos pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je me rappelle que l'imam de notre mosquée nous avait dit cette même parole, mais qu'il avait ajouté que ceci s'appliquait à tout, sauf les habitants de Mecca et Médina, et que ces derniers seront interrogés sur leurs pensées. Est-ce une parole véridique? Si oui, quel est le dalil? Barakallahu fikoum. Allahu Akbar. Je n'ai jamais entendu une chose pareille. Il n'y a pas plus faux que cela. Il n'y a pas plus faux que cela. Et si seulement avec, yani, sans connaître le dîn, vous allez dire pourquoi, yani, Médine, il a dit Médine et la Mecque. Non, non. Pourquoi Médine et la Mecque? Non. Donc tous les gens, chauffe logiquement, qu'est-ce qui va se passer? Tous les gens vont fuir de Médine et la Mecque. Alors que le hadith dit, si tu peux mourir à Médine, fais-le. Tu auras l'intercession du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris? Le hadith dit, si tu peux mourir à Médine, fais-le. Si tu meurs là-bas, tu auras l'intercession du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith, d'après ce imam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si tu vis à Médine ou à la Mecque, tout ce que tu dit t'en compter, donc il sera contre toi. Donc les gens ne vont plus essayer de vivre à Médine et ou à la Mecque. Ils vont fuir de Médine et la Mecque car ils vont être jugés sur ce qu'ils pensent. Il y a pas de plus faux. Tfadal. J'ajouterais que si c'était vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas oublié de le mentionner. Quand il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas vous, disons, vous châtier pour ce que vos cœurs, sauf si vous le faites ou vous le dites. Il n'a pas dit ici, sauf les gens de Mecca et Médine. Et s'il y avait ça dans le hadith, il l'aurait mentionné, sallallahu alayhi wa sallam.
Ah, question suivante, cher. Une question d'un frère. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan, cher ainsi qu'aux admins. Puisse Allah vous accorder la guérison. Une amie de ma femme demande: mon fils de 9 ans n'arrive pas à rester réveillé jusqu'à l'heure du Aïcha. Peut-il prier en avance et ainsi joindre avec le Maghreb? Le week-end, je le force à rester debout, mais pendant la semaine où il est à l'école, c'est très difficile pour lui. Pourriez-vous également faire une doua pour deux sœurs atteintes de sihr qui font des efforts à se soigner seules, ruqya, mais n'arrivent pas à accomplir la salat? Tfadal, cher.
Non, pour l'enfant de 9 ans, comme vous savez, la prière pas, elle est obligatoire à 10 ans. Non, à 10 ans, on commence à le frapper s'il la prie pas à l'heure, et on ne dit pas qu'elle est obligatoire à 100% à 10 ans. Mais on dit qu'elle devient importante pour lui à 10 ans. Mais elle devient obligatoire quand il devient pubère, pas avant. Entre 7 et 10 ans, elle devient quelque chose de qu'il faut lui dire. À partir de 10 ans, elle devient quelque chose d'important, de très important. Et du moment où il est devenu pubère, ça devient obligatoire, bidna ta'ala. Donc, elle, inshallah ta'ala, elle peut faire ce qu'elle a dit de temps en temps comme ça, car ce n'est pas encore obligatoire pour lui, mais ce sont, inshallah ta'ala, des entraînements pour lui, bidna ta'ala. Naam. Ensuite, elle a dit: pouvez-vous faire une doua pour des sœurs atteintes de sihr qui font des efforts soignés seules, ruqya, mais n'arrivent pas à accomplir la salat? N'arrivent pas à accomplir la salat. Accomplir la salat. Non, j'ai pas compris pourquoi. Mais je demande à Allah subhanahu wa ta'ala tout-puissant, an ishfiyahuma. Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, an ishfiyahuma. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala tout-puissant qu'il leur donne une guérison, qui fera éloigner d'elle toute maladie. Quand elles font, si elles n'arrivent pas, si elles rentrent dans le besoin et elles rentrent dans la contrainte, font appel à quelqu'un qui s'y connaît, bi'idhnillah ta'ala.
Question suivante, cher. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fikum. Ma question est à propos du hasard de Waqi'a ibn al-Jarrah. Lorsqu'un homme se montra grossier envers lui, je n'ai pas bien compris ce hasard. Je n'ai pas compris l'intérêt de se couvrir le visage de terre. Jazakumullah khairan. Ensuite, pour le hasard de Abdullah ibn Dinar. Lorsqu'il a rencontré le pâtre qui était esclave et qui craignait Allah Azzawajal, lorsqu'il se mit à pleurer, c'est parce qu'il lui a proposé de faire quelque chose de blâmable, mentir à son propriétaire en disant que le loup a mangé le mouton. Ou bien il pleurait car il trouvait émouvant la crainte qu'avait l'esclave envers Allah. Jazakumullah khairan cher, qu'Allah vous récompense et vous accorde le firdaous. Quand la récompense est accordée et accorde le Ferdaous à tous les contributeurs. Amen. Fadashir.
Naam, alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Donc, cette sœur qui a posé cette question, ça prouve qu'elle a le livre. Elle a le livre de Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Quelle est la preuve? La preuve, c'est qu'elle a cité un athar. Elle a cité un athar de Waqi' ibn al-Jarrah que je n'ai pas cité. Que je n'ai pas cité. Et elle a dit qu'elle n'a pas compris l'intérêt de se couvrir le visage de terre. Car dans ce hadith, c'est écrit que ce tabi'i étaler quoi? Se couvrir le visage de terre. Ensuite, il est ressorti. Elle a dit, elle n'a pas compris cela. Je lui réponds que c'est très facile. La réponse est très facile. C'est quoi la réponse? La réponse, c'est que moi-même aussi, je n'ai pas compris cela. Et c'est pour cela que je n'ai cité ce athar. Donc vous avez compris, moi je ne vous ai pas cité ce athar. Quand il est allé se remplir le visage de terre. Donc puisque je ne l'ai pas compris, je ne vois pas comment je vais l'expliquer. Taïb. Ensuite, au deuxième athar de Abdullah ibn Omar, elle a dit, est-ce que yani, il a acheté cet esclave, il l'a affranchi. Parce que, naam, il lui a demandé de mentir à son propriétaire. Donc, il a regretté, ensuite il a pleuré. Ou alors, peut-être, parce qu'il a trouvé émouvant, yani, la crainte qu'avait l'esclave envers Allah. Sur jeudi, ça suppose les deux choses. Ou bien c'est la première, ou bien la deuxième. Et moi, j'ai choisi la deuxième. Pourquoi? Parce que j'ai fait un préambule. J'ai fait une introduction dans laquelle j'ai dit, Abdullah ibn Omar était quelqu'un des pieux, connu pour son attachement à la sunna. Loin de lui, qu'il dise à quelqu'un, écoute, mens, va mentir à ton maître et donne-nous le loup, donne-nous un agneau et dis-lui que c'est le loup qui l'a. C'est pour cela que moi j'ai choisi la deuxième alternative. Comme quoi, s'il a pleuré ici, c'est parce qu'il a entendu la réponse de l'autre. Il lui a dit, et comment qu'on fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous a entendu. Donc il a été, et par cela, il a été très content et il a pleuré. Et là, ensuite, il a racheté, il a affranchi. C'est-à-dire, dans son cœur, il y a quelqu'un qui a une réponse pareille. C'est comme ça ce que je pense de Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, wallahu ta'ala alam, et barakallahu fiki ukhti pour, yani, c'est, naam, ce que tu viens de dire ici, inshallah.
Question suivante, Inch'Allah, question d'une sœur qui dit: je porte des gants et des sœurs me disent que les gants ne sont pas une obligation. Je leur dis que lorsque je porte des gants, je me sens bien et plus couverte. Et j'ai vu des fatwas qui disent que tout le corps d'une femme est une aura, donc elle doit se couvrir. Pourriez-vous nous en dire plus concernant le fait de porter des gants? Qu'Allah vous récompense ainsi que les admins. Admin, Amin. Fadashir.
Quand elle dit que elle a vu des fatwas où ils disent que tout le corps de la femme, lui dit ça c'est un hadith, ça c'est un hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la femme, le mar'atu, voilà, rapporté par Ahmed, authentifié par Cheikh Al-Albani rahmahullah. Deuxièmement, les savants ont divergé sur le visage et les mains. Ça marche ensemble, ça marche ensemble. Si on dit que le visage est interdit, elle ne doit pas le faire voir, ça rentre aussi les mains. Si on dit les mains, ça rentre aussi le visage. Ça ne peut pas être séparé. Donc je dis à cette sœur, si elle met les gants, elle doit aussi ne pas montrer son visage. Ne pas montrer son visage. Mais maintenant, si elle est dans la contrainte, par exemple, elle dit, pour mon visage, je ne peux pas, je ne peux cacher que mes mains. On lui dit, la règle qu'on a toujours dit, c'est-à-dire si tu peux seulement les mains, alors au moins cache les mains. Si tu es d'avis que on doit cacher le visage et les mains, et que tu ne peux cacher que les mains, alors au moins cache les mains. Comme si tu dis, je ne peux cacher que le visage. On dit, au moins cache le visage. Tout cela, si on est que les mains et le visage doivent être cachés. Maintenant, si on prend du deuxième avis, qui dit que c'est permis de montrer le visage et les mains, d'après un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit à Esma, la sœur de Aïcha, il lui a dit à Esma, yani, ne sais-tu pas que quand une femme est pubère, on ne doit voir d'elle que ceci et cela. Ceci, il a montré le visage, et cela, il a montré les mains. Si tu es d'avis, c'est l'avis de Cheikh Albani, que la femme peut montrer son visage et ses mains, dans ce cas, naam, tu es libre si tu veux montrer tes mains. Alors mets-les, mais sans dire que c'est obligatoire si tu prends du deuxième état. Tfadlal.
Alors, question suivante, cher. Une question d'un frère. Assalamu alaikum Abu Abdillah. Hayakum Allah. Une sœur ayant eu des dettes par le passé voudrait les payer, mais elle n'a plus de traces des personnes à qui elle les doit. Que doit-elle faire pour s'acquitter de ses dettes? Barakallahu fekoum. Qu'Allah vous augmente en science et vous accorde le Firdaous. Amin. Tfadal, cher.
Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Quand une personne a des dettes, elle doit chercher la personne elle-même qui lui a yani, prêté cet argent. Si elle ne trouve pas la personne, elle doit chercher ses héritiers. Ses héritiers. Si elle ne trouve ni cette personne ni ses héritiers, elle doit les donner, fi sabilillah, à des démunis par exemple, ou à une mosquée, ou bien, et elle met dans sa tête que c'est gagner avec l'intention que c'est pour la personne, c'est-à-dire pour que les récompenses aillent vers la personne. Naam. Et ensuite, quand une année après, ou bien 2 années, ou bien 10 années, ou bien 20 années après, elle rencontre la personne. Elle rencontre la personne qui lui devait de l'argent, elle lui dit, écoute, ton argent, hein, tu te rappelles, tu m'as prêté par exemple 100 euros, ton argent, je l'ai donné, fi sabilillah, avec l'intention que les récompenses, c'est pour toi. Et maintenant, choisis. Ou bien tu acceptes ce que j'ai fait, ou bien je te rembourse tes 100 euros et c'est moi qui prends les récompenses. Et tu vois ce que te dit la personne. Si elle te dit, non, moi, ça m'intéresse pas les récompenses, moi, donne-moi mes 100 euros. Tu lui rends son argent et tu prends les hasanat. Et si elle a de la foi dans le cœur, elle te dit, alhamdoulilah, ma'alish. Yani, j'accepte les récompenses, elle aura les récompenses et tu n'auras plus à lui donner d'euros, bi'ilnillahi ta'ala. Tfadal.
Question suivante, cher. Question d'un frère. Salam alaikum, cher. Hafizakum Allah. Vous avez cité le hadith concernant la chair nourrie de l'illicite qui devra être fondue en enfer. Cher, y a-t-il une expiation pour éviter ce passage en enfer ou devrons-nous y passer obligatoirement pour faire fondre cette nourriture? Je vous donne un exemple. Une fois, j'ai trouvé de l'argent et je l'ai ramassé. J'ai entendu Cheikh Al-Fawzan qui disait que l'argent trouvé ne devait pas être ramassé. La nourriture achetée par cet argent sera-t-il fondue en enfer ou dois-je reposer la somme d'argent en ce lieu pour me débarrasser de tout péché? Ou dois-je faire autre chose pour expier cette erreur? Barakallahu fekoum. Tfadal, cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah. L'air tout faire. Je voudrais t'ouvrir ton PV. Ah, faut mon PV. Je dois cliquer sur toi. Mais je ne vois pas où tu es. Je ne vois pas où tu es. Non, je te cherche. Je ne t'ai pas trouvé. Si c'est possible, tu lèves la main, inshallah ta'ala. Si c'est possible, lève la main, inshallah ta'ala, pour que je te voie. Le dernier, c'est Idriss 96. Voilà, maintenant je te vois. Tayyib. Une seconde. Voilà, maintenant c'est ouvert. Je dis à la personne qui vient de dire qu'elle avait pris de l'argent et que Cheikh Fawzan a dit qu'il fallait. Je pense, wallahu alam, que la personne n'a pas bien compris la question. Cheikh Fawzan ne dit pas, il faut pas prendre l'argent comme ça. Fawzan dit, il faut pas prendre l'argent si c'est à la Mecque. Si c'est à la Mecque. Ils disent qu'il ne faut pas prendre. Et si on le prend, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit comme dans d'autres villes. Dans d'autres villes, si tu prends, par exemple, tu trouves de l'argent. Tu les prends. Tu as une année devant toi. Tu cherches son propriétaire. Tu mets des recherches dans les journaux, à la télé, à la radio, le mohim. Tu as une année devant toi. Si après une année. Pas devient ton argent à condition que, comme j'ai dit tout à l'heure, si jamais après quelques années, il y a le propriétaire, on le rencontre, il dit On doit lui rendre ça, même si on les a donnés. On les a donnés, fsabilah. Sauf si la personne dit, ça ne fait rien, je ne prends pas l'argent puisque vous les avez donnés. Donc ça, c'est dans toutes les villes du monde, sauf à la Mecque. À la Mecque, si tu trouves de l'argent et que tu les prends, tu n'as pas le statut d'une année. Après une année, ils ne deviennent pas ton argent. C'est-à-dire que tu dois tout le temps, chercher leur propriétaire jusqu'à ce que tu meurs. C'est pas comme dans les autres villes, après une année, ça devient ton argent. Voilà la différence. C'est pour cela, donc, à la Mecque, si je les prends, ça ne devient pas mon argent, jamais. Même après une année. Donc à quoi ça sert que je les prenne? Il vaut mieux que je les laisse comme ça. Si jamais peut-être quelqu'un va revenir à cet endroit, il va les prendre. Non. Mais ceux qui ont dit qu'ils vont mieux les prendre, ils vont les poser. Tu vas comme ça dans des bureaux à la Mecque, ou spéciaux, où tu dis, voilà, j'ai trouvé cet argent, et ils vont les donner à leur propriétaire. Al-Mouhim, le hadith, on revient au hadith. Il a dit que toute personne qui a mangé quelque chose de haram, qu'elle doit passer par l'enfer pour faire fondre le haram de la chair qu'elle a eue maintenant, s'applique, je dis, ce hadith s'applique à la personne qui n'a pas fait le repentir. Mais si la personne a fait la tawba et a regretté, et a demandé à Allah Ta'ala de lui pardonner, nam, et a rendu l'argent, par exemple, si c'est de l'argent volé, par exemple, dans ce cas, nam, Allah Ta'ala lui pardonne. Mais Allah Ta'ala de la personne qui n'a pas fait tawba. Mais si elle a fait tawba et a rendu son argent, par exemple, ou bien a fait sortir, inshallah ta'ala, elle ne passera, le hadith ne s'applique pas à elle. Tfadla.
Alors, question suivante, cher. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous préserve. Est-il permis de prendre des photos de nos enfants pour les garder en souvenir dans un endroit caché, ordinateur ou autre? Sinon, dois-je toutes les supprimer? Barakallahu fikoum, cher. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez et qu'il vous accorde le Firdaous ainsi qu'à tous ceux présents. Amin. Tfadal, cher.
Je dis, celui qui craint vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, nam, s'il peut, qu'il ne laisse pas de photos, nam, comme ça, il priyama. Celui qui a déchiré les photos qu'il avait comme souvenir, celui-là, il n'a pas de doute qu'il n'aura pas de problème, yom priyama, par rapport aux photos. Quant à celui qui les a laissés, celui-là, il est dans les doutes. Ou bien Allah Ta'ala va lui pardonner, ou bien il va lui dire, tu as fait des grands péchés, et je te demande maintenant de faire vivre, revivre ces pertera, et il tombe dans les problèmes. Celui qui veut sortir des problèmes, qu'il ne laisse pas, il y a ni de photos en souvenir. Et d'ailleurs, comme dit Allah, il dit même quand quelqu'un, quand il laisse des photos en souvenir, surtout de personnes. Il a dit, quand il va voir maintenant la personne morte, premièrement la personne, au-delà, khlas. Et toi, tu dis qu'elle est là devant toi. Deuxièmement, il a dit, quand tu vois une personne, par exemple ton père ou là, ta mère ou là, ta. Il a dit, en fait, tu crois que c'est quelque chose de bien, de mal, en ce sens que quoi? Ça va te donner des remords dans ton cœur. Maintenant, en la voyant, tu vas dire, aïe, aïe, comme je regrette, comme je voudrais qu'elle soit vivante, l'embrasser, comme ceci, comme cela. Ça ne te donne que des remords dans ton cœur. Celui qui n'a pas la photo de son grand-père et de sa mère, etc., morte, c'est mieux pour lui. C'est mieux. Un exemple. Moi, j'ai un frère qui est de 4 années, 3 ou 4 années moins âgé que moi. Il est mort maintenant, ça fait à peu près 15 ans. Depuis qu'il est mort, je n'ai jamais voulu voir sa photo. Premièrement, je n'ai pas sa photo. Deuxièmement, on a voulu me la montrer une ou deux fois chez ses enfants, par exemple. Je n'ai pas accepté. Pourquoi? Car je C'est tellement, c'est difficile, j'aime pas le voir. Donc, que des remords dans mon cœur et je commence à pleurer et ceci et cela. Donc, quand tu es loin de toi, ces photos, c'est mieux pour toi. Naam. Tfadhal.
Question suivante, cher. Question d'une sœur. Qu'Allah vous récompense et vous guérisse de tout mal. La sadaqa de la personne endettée est-elle acceptée si la personne est endettée avec l'État, par exemple? Jazakumullah khairan. Fadal, cher.
Afoun, je n'ai pas compris cette question. Fawzi, est-ce que c'est en direct ou là, pas en direct, en différé? Tfadhal.
Elle veut dire en fait si elle a des dettes vers un kafir, un kafir par exemple. Elle dit l'État, c'est-à-dire l'État français ou un autre notre État. Si une personne est endettée envers l'État, est-ce que s'il donne une sadaqa, elle est acceptée? Tfadha cher.
La sadaqa, si elle est acceptée, qu'est-ce que tu vas m'expliquer, musulman? Qu'est-ce que tu as compris, toi, de cette question? Elle dit, la sadaqa de la personne endettée est-elle acceptée si la personne est endettée avec l'État, par exemple? Comment cela, tfadla?
En fait, cher, j'ai compris, Naam, j'ai compris sa question. Par exemple, moi, je suis endetté. J'ai des dettes envers l'État. Et malgré cela, donc moi, j'ai un peu d'argent, je décide de faire une sadaqa. Est-ce que ma sadaqa est acceptée alors que j'ai une dette envers quelqu'un? C'est sa question. Tfadal, cher.
Mais j'ai dit tout à l'heure, si la personne existe, je dois le rendre l'argent à la personne. Si maintenant l'État me doit de l'argent, je ne vais pas faire une sadaqa avec son argent. Je vais à l'État pour lui rendre son argent. Là, si par exemple, c'est impossible de rendre, par exemple, l'argent, elle n'accepte pas, ou bien ils vont me rentrer en prison, ou bien je ne sais pas quoi. Je peux acheter une chose qui revient à l'État. Par exemple, acheter une chose et la mettre dans, par exemple, dans l'hôpital se sert. Donc, je vais acheter une chose, par exemple, qui profite à l'hôpital et la mettre, par exemple, dans un hôpital. Dans ce, hein, je ne sais pas, des seringues, des médicaments, des nerfs, je ne sais pas, l'argent que je dois rendre à l'État. Wow, l'État en a besoin. C'est un exemple. Tfadhal.
Allahu alam, cher, c'est pas le sens de sa question. C'est pas le sens de sa question. Par exemple, cher, vous devez de l'argent à l'État. Vous avez une dette envers l'État. Vous avez une certaine somme à leur rendre. Et je sais pas, vous décidez, vous avez un petit peu d'argent sur vous. Vous décidez d'aller donner un peu d'argent à des nécessiteux que vous connaissez. Mais ça n'a rien à voir avec votre dette. C'est indépendant de la dette. Elle veut savoir en fait si en gros, est-ce que c'est une condition d'acceptation de la sadaqa de ne pas avoir de dette? En résumé, c'est ça, Allahu a'lam, sa question. Tfadha cher.
Non, j'ai compris. J'ai compris ce que vous voulez. Non. Quand j'ai des dettes, non, je commence par. Quand j'ai des dettes, si mes dettes sont par tranche, l'État me doit de l'argent et j'ai un contrat avec eux que je paye par tranche. Par exemple, 20 € chaque mois. Ça ne m'empêche pas de donner, à part les 20 €, ça ne m'empêche pas de donner des sadaqa fi sabilillah. Pourquoi? Car je suis en train de payer mes dettes. J'ai un contrat avec eux que je ne paye que 20 €. Donc les autres, je peux donner à droite et à gauche, fi sabilillah. Vous avez compris? Parce que j'ai un contrat avec eux, comme quoi je dois donner telle somme. Non. Et maintenant, si je n'ai pas un contrat avec eux, je dois commencer d'abord par les dettes. Car sadaqa, c'est tout juste surérogatoire. C'est nafila, c'est bénévole sadaqa. Si tu ne fais pas sadaqa, Allah Ta'ala ne va pas te punir yawm al-qiyama. Par contre, si tu payes pas les dettes, c'est grave pour toi. C'est une obligation. C'est pour ça que je commence par l'obligation avant quoi? Avant la nafila. Alors,
Une question suivante, Wallahu alam, ce sera probablement la dernière. Assalamu alaikum, je voudrais savoir si une erreur de prononciation du dernier tashahhud, qui est un pilier, affecte la prière ou pas, sachant que l'erreur de la récitation de la Fatiha n'est pas admise. Si on la connaît, reprenez-moi si je me trompe, j'ai fait une erreur, j'ai dit Muhammadun à la place de dire Muhammadin. Sans le faire exprès, je me suis rendu compte qu'après avoir terminé, est-ce que ma prière est valable? Tafadhal cher.
Naam, alaykoum salam, rahmatullah. Ta prière est valable, inshallah ta'ala, à 100% pour deux raisons, inshallah ta'ala. Inshallah. Je dis à 100%, bon, j'exagère. Je peux pas rentrer dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je dis ce que disent les savants. Premièrement, tu as fait ça. Oh, et Allah ta'ala a répondu, il a dit, qad fa'alt. J'ai accepté, j'ai accepté. Hadith rapporté par Muslim. Et deuxièmement, ceux qui disent que l'erreur n'est pas acceptée, ce n'est pas une chose pareille comme Muhammadun au lieu de dire Muhammadan. Mais l'erreur, par exemple, c'est au lieu de dire, par exemple, Shadun la ilaha Shadun Muhammad, Abduhu wa Rasuluhu, attendez. Donc, à place de Muhammadin, non. Au lieu de dire Muhammad, par exemple, tu cites, par exemple, Ibrahim, ou bien tu dis Isa, au lieu de dire Muhammad. Ou bien au lieu de dire Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, tu as dit par exemple que c'est Nabiullah, c'est Naam. Mais comme ça, au lieu de dire on, tu as dit in. Au lieu de dire in, tu as dit on. Dans une chose pareille, ce n'est pas une erreur au point que ça annule. Ça n'annule pas, bi'idhnillahi ta'ala. On a juste terminé, il est minuit chez nous, bi'idhnillahi ta'ala. Combien il est? Pas minuit. Il est 23h30. Bi'idhnillahi ta'ala. Je n'ai pas encore mangé. Je dis subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah alaykum wa rahmatullahi wa faire, je les ai notés. Barakallahu fik. On va se rencontrer. Salam wa rakatuh. Amin.